Vous êtes sur RTL.
Prends le relais. Bonjour Yves.
On va vers le mieux. Merci beaucoup Julien. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, est ce matin sur RTL. Il répondra aux questions d'Alba Ventura dès 7h40 et elles seront nombreuses. Alors que le gouvernement semble avoir pris un virage sanitaire marqué, il sera aussi questionné sur les ratés du week-end, attestation, ouverture de commerce incompréhensible et rassemblement dû à un confinement qui n'en est pas vraiment un. Et vous pourrez d'ailleurs interroger le ministre, vous aussi, dès 8h20. L'accès au commerce, les apparentes contradictions, les aides qui t'intéressent venir et d'une façon plus générale l'état de l'économie du pays. Tous vos appels au ministre dès maintenant, 64 900 code matin par SMS et 32 10 pour joindre le standard d'RTL et l'interroger en direct. Nous sommes le lundi 22 mars 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Les images ont fait le tour de la planète, c'était le 1er décembre 2018.
L'Arc de Triomphe, pillé, saccagé, un traumatisme national pour lequel seront jugées tout à l'heure 4 personnes. L'Europe sera-t-elle libérée du Covid cet été? C'est la promesse en tout cas de Thierry Breton qui annonce l'immunité collective du continent d'ici le 14 juillet. La vie sans restriction, ou presque, c'est l'autre France, celle qui n'est pas confinée où l'on profite des premiers jours du printemps. Reportage à suivre. Le mythique Solex, bientôt disponible en version électrique, finit le moteur à l'avant. Les batteries sont désormais sous la selle, RTL a testé. Et puis la Ligue 1, relancée après la victoire du PSG hier soir, qui reprend la tête du championnat.
La politique, Olivier Bost.
Et pourquoi faire simple alors que l'on sait faire très compliqué.
Notre rendez-vous dès la fin du journal.
RTL Matin.
Personne n'aura oublié ces images. L'Arc de Triomphe, pris d'assaut par des dizaines de gilets jaunes, tagués, pillés, des statues défigurées, la tombe du soldat inconnu piétiné. Nous sommes le 1er décembre 2018, l'acte 3 selon le décompte des manifestants. Ce jour-là, à Paris, 412 personnes seront interpellées. 4 seulement comparaîtront tout à l'heure devant le tribunal correctionnel. Procès de ce qui restera probablement le moment le plus marquant de toutes ces manifestations, Alice Moreno.
Oui, les affrontements éclatent très tôt ce matin-là dans le quartier des Champs-Élysées, un peu avant 9h. Et ce n'est que le début d'une longue journée de violence. L'Ouest parisien se retrouve noyé dans les gaz lacrymogènes, les fumées de véhicules incendiés. Des projectiles fusent en direction des forces de l'ordre qui ripostent à coups de lanceurs de balles de défense. Dans l'après-midi, ces heurts se concentrent au pied de l'Arc de Triomphe. La police charge, des casseurs entrent dans le monument et saccagent tout ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Les images des statues défigurées feront le tour de la planète et certains manifestants revendiqueront une prise de l'Arc de Triomphe. 120 vitrines sont brisées ce samedi dans le quartier des Champs. Des bâtiments sont en flammes, des grilles du jardin des Tuileries tombent. Plus de 130 personnes sont blessées, 412 sont interpellées. Le lendemain matin, le président de la République se rend dans le quartier mis à sac. Le désaveu est tel pour les autorités que ce 1er décembre 2018 marque le début d'une nouvelle politique de maintien de l'ordre.
Alice Moreno, 4 personnes seulement donc sur le banc des accusés, mais un procès symbolique et une condamnation réclamée par maître Jean-Philippe Morel. Il est l'avocat de l'association Halte au pillage du patrimoine.
L'Arc de Triomphe, ce n'est pas simplement un monument, c'est également un musée et c'est surtout un lieu mémoriel. À un moment donné, on ne se retrouve pas sans s'en rendre compte dans un bâtiment qui est un musée. Et si on ne s'en rend pas compte, c'est plutôt inquiétant. Et certains sont véritablement venus pour casser. Il y a eu des actes volontaires, délibérés, de destruction d'objets qui sont classés monuments historiques.
Le procès doit durer jusqu'à vendredi.
RTL 7h03. Peut-on raisonnablement espérer être libéré du Covid d'ici juillet? Eh bien oui, répond Thierry Breton.
Et le commissaire européen en charge de la vaccination avance même une date symbolique, évidemment, le 14 juillet. D'ici là, le continent aura, selon lui, atteint l'immunité collective. Il annonce 350 millions de doses jusqu'en juin. Bénédicte Tassard, une chose est sûre, nous allons dès le mois prochain changer de dimension et de cadence.
Oui, regardez la France. 170 000 injections par jour. À partir d'avril, si les labos au nord leur commandent, on devrait passer à 600 000 injections quotidiennes, soit au total 54 millions de doses pour le deuxième trimestre. Notre pays se situe aujourd'hui dans la moyenne européenne, avec près de 10% de vaccinés avec une première dose et 4,5% avec la seconde dose. Depuis peu, on vaccine enfin le week-end et de grands centres devraient ouvrir leurs portes début avril. Mais il y a un frein supplémentaire pour la France, par rapport à ses voisins. Paris a commandé davantage de Pfizer-BioNTech que d'AstraZeneca. La logistique est d'autant plus compliquée. En Italie, pour aller plus vite, Rome confie sa campagne à un général. La Roumanie, elle, modifie la liste des personnes prioritaires, vaccinant maintenant les facteurs, les policiers, les employés de supermarchés, bref, tous ceux en contact avec du public. Et pour aider à cette accélération de la campagne européenne, la Commission vient de débloquer quelques dizaines de millions d'euros.
Bénédicte Tassard, vacciner en priorité les salariés en contact avec le public, c'est également ce que demande Laurent Berger, invité hier du grand jury RTL, le Figaro LCI. Le patron de la CFDT a notamment cité les enseignants.
L'invité d'RTL ce matin est Bruno Le Maire. Il répondra aux questions d'Alba Ventura dès 7h40 et vous pourrez vous-même questionner le ministre à partir de 8h20.
La colère ce matin de Benoît Payan, le maire de Marseille, qui dénonce l'attitude égoïste de quelques irresponsables au lendemain du carnaval qui a rassemblé hier 6500 personnes, essentiellement des jeunes, sans masque et sans aucune distance de sécurité. Manifestation non déclarée en préfecture. Plusieurs interpellations ont eu lieu en fin d'après-midi après les dégradations. Martine Vassal, la présidente LR de la métropole, veut porter plainte. Sans aller jusqu'à défiler sans masque dans les zones qui ne sont pas concernées par le confinement, les habitants profitent de leur relative liberté. À Toulouse, par exemple, la base de loisirs du lac de la Ramée a fait le plein en ces premiers jours du printemps. Le nouveau couvre-feu à 19h a même permis d'assouplir les restrictions. Reportage de Pierre Collat.
Le parking du lac de la Ramée est bondé. Il faut dire qu'ici, entre 6h et 19h, il n'y a pas de restrictions. Alors au programme...
Un peu de soleil, un peu de fraîcheur et un peu de marche pour s'aérer.
Martine vient de Seine-et-Marne. Elle est arrivée dans le sud il y a 10 jours, bien contente d'éviter le reconfinement dans son département.
Je suis venue garder mon petit-fils qui n'a pas d'école. Donc je suis contente de profiter de l'endroit, il fait beau.
De nombreux joggeurs et vététistes font le tour du lac. Louise a choisi les rollers pour profiter du soleil, avec une petite pensée pour les régions du Nord.
Par contre, ça doit être dur pour les gens qui sont reconfinés, parce que c'est vrai que c'est déjà assez dur le couvre-feu, donc je suis contente qu'on n'ait pas le confinement.
Ici, le plus grand changement, c'est 7 heures supplémentaires. Couvre-feu à 19h au lieu de 18 depuis samedi, ça redonne un peu de courage pour cette nouvelle semaine.
Que même si une heure, c'est pas grand-chose, quand même, sur une journée, ça permet de pouvoir aller faire ses courses en rentrant du travail, d'être plus tranquille quoi.
Les Toulousains devraient continuer de profiter de leur liberté avec une météo printanière prévue pour toute la semaine.
Un reportage de Pierre Collat. Et puis cette réunion cet après-midi à Matignon autour de Jean Castex qui s'intéressera à la santé mentale des Français depuis plusieurs mois. Les spécialistes alertent sur les effets néfastes du confinement.
Indémodable depuis des générations, le Solex se réinvente et passe à l'électrique. RTL a testé et on vous explique tout ça dans un instant.
RTL Matin.
RTL Matin.
7h08, à suite du journal de Dominique Tenza. Alors que les ventes de vélos électriques cartonnent, eh bien Solex ne pouvait pas rater le virage et s'y met à son tour.
Fabriqué en France, la marque va sortir une réplique de son premier modèle, sorti à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un style très rétro, une touche un peu vintage à la française. Christophe Bourou, vous avez enfourché le modèle. Verdict.
Ce Solex reprend exactement le style du premier modèle de 1946, avec son cadre noir en forme de col de cygne, sauf que le bon vieux bourdonnement du moteur a laissé place à des batteries électriques démonstration.
Allez, c'est parti pour les premiers tours de roue et ça file 25 km/h. Avec un poids à plume, c'est 10 kg de moins que le vélo Solex qu'on connaît, hein, ce qui fait que 23 kg. Autonomie 60 km. Et le fameux moteur à l'avant a été remplacé par un petit panier dans lequel on peut mettre ses courses. Et franchement, c'est très agréable.
Vendu un peu plus de 1 500 € pour une fabrication française à Saint-Lô dans la Manche, mais plus qu'un vélo, c'est une Madeleine de Proust pour Grégory Trébaol, président d'EasyBike Solex, qui détient la marque.
Je mets au défi de trouver quiconque une famille qui n'aurait pas eu une histoire avec Solex. La grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante, le cousin, qui touchait tous les milieux sociaux.
À la fois populaire et superstar, de Brigitte Bardot au film de Jacques Tati, le Solex s'est écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires. Il pourrait donc aujourd'hui revivre une seconde jeunesse grâce au boom des vélos électriques, dont les ventes ont plus que doublé en un an.
Vous voyez que ça vous tente.
Ouais, oui, bah oui, moi aussi. Le nouveau Solex par Christophe Bourreau. L'actualité à l'étranger, ces deux Américains inculpés au Japon ce matin, soupçonnés d'avoir aidé Carlos Ghosn à s'enfuir vers le Liban. C'était en décembre 2019. Et puis au Congo-Brazzaville, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, la mort ce matin du principal opposant au président sortant, Denis Sassou Nguesso. Guy Brice Parfait-Colela, son rival le plus sérieux, avait été évacué hier après-midi par avion médicalisé vers Paris après avoir contracté le Covid.
7h10 en football, Paris reprend donc la tête du championnat et relance le suspense en tête de Ligue 1.
Victoire des Parisiens à Lyon, 4 buts à 2 hier soir. Le PSG récupère donc la première place après la défaite du LOSC et prend l'avantage, Philippe Sanfourche.
Oui, les pendules remises à l'heure pour Paris et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. C'est 99 et 100e but en Ligue 1. Le kit de Bondy au micro de Canal+, ravi de retrouver la tête du championnat.
Ouais, c'était bien. On a fait un bon match, on a gagné, on reprend notre première place. On va essayer de faire en sorte de ne plus la laisser. On s'était préparé à gagner, on avait coché cette date. On savait que c'était un moment important du championnat. Encore plus avec la défaite de Lille, donc ça a roulé comme on dit.
Roulé à plein régime sur un OL au ralenti, mené 4-0 avant de redresser un peu la tête en fin de partie. Le gardien Anthony Lopez a du mal à encaisser.
On a été KO pendant 60 minutes. Quand on joue le PSG et qu'on joue 30-35 minutes, ça peut pas le faire. C'est inacceptable. Voilà. Mais va falloir avancer tous ensemble et... Il reste 8 matchs.
8 journées d'un championnat totalement fou dans lequel 4 équipes se tiennent en 4 petits points, de Paris à Monaco, 4 potentiels champions.
Philippe Sanfourche. En rugby, l'ouvreur du 15 de France, Mathieu Jalibert, sorti au bout de 30 minutes après une commotion lors du match face au Pays de Galles, a déclaré forfait pour affronter l'Écosse vendredi prochain. Je vous rappelle que si les Bleus l'emportent dans cet ultime match avec un écart d'au moins 21 points, ils remporteront le tournoi.
On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Compiègne.
Et les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 5, le 2, l'As, le 15, le 12 et le 13. Et la dernière minute, c'est le 15. Falcon Run.
C'était le journal de Dominique Tenza. 7h12, la politique avec vous, Olivier Bosse. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors après un week-end encore assez cafouilleux, vous vous demandez ce matin, Olivier, pourquoi faire simple ?
Eh oui, parce que nous en sommes encore là. Je sais que j'étais un peu ironique vendredi matin au lendemain des annonces de confinement, qui ne sont pas des confinements, je vous le rappelle. Oui. Mais je ne pensais pas être si loin de la réalité. Nous avons donc eu l'attestation de sortie sur 2 pages et avec autant d'exceptions ce week-end, puis la nouvelle version de l'attestation et enfin la disparition de l'attestation à moins de 10 km de votre domicile. Vous êtes déjà perdu, c'est normal. Oui. Même le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, hier sur RTL, dans le grand jury, avait encore du mal à s'y retrouver. Il s'est trompé entre les 10 km et les 30 km pour faire ses courses. Comme me l'a résumé un ministre de premier plan, lorsque sont apparus les fameux commerces non essentiels, quand un choix est con, tout ce qui suit est con.
Mais comment sommes-nous arrivés là ?
Eh bien, quand nous partons à la recherche de Kafka et de l'enfer administratif, parfois, nous nous trompons d'étage, ou plutôt nous oublions un étage. Nous avons une vision, pas totalement fausse quand même, d'une administration capable du pire, d'inventer des normes pour tout et sans aucune raison. L'obsession du contrôle, du zéro défaut, cette envie de ne jamais rien laisser au hasard ou à l'initiative de chacun, c'est une marque de notre État omnipotent et à la fin inefficace. Mais l'administration, la technostructure, comme on dit, est aussi un coupable parfois un peu trop facile. L'adage veut que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Or, ce qu'a présenté Jean Castex jeudi soir, j'y reviens, n'était pas clair. Ce qui a été décidé entre Emmanuel Macron et son Premier ministre est trop complexe ou trop subtil. Personne ne peut leur enlever l'envie de bien faire, jusqu'à l'envie de trop bien faire. Mais dans cette histoire, l'administration n'a fait que transcrire ce qui n'était pas clair. Quand les ordres sont compliqués, ce qui en ressort est encore plus compliqué.
À l'arrivée, qui est responsable de cette situation littéralement kafkaïenne ?
Alors, ce week-end de Matignon, donc l'entourage du Premier ministre, et Beauvau, le ministère de l'Intérieur, se sont aimablement renvoyés la responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ça serait rigolo si à la fin, quelqu'un y avait compris quelque chose. D'ailleurs, nous ne sommes peut-être pas au bout des explications et clarifications. Après la liste élargie des commerces qui peuvent ouvrir, les règles de ce que l'on peut faire ont encore évolué. L'idée, c'est de ne pas voir ses amis chez soi. Une précision du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, hier sur BFM. Vous pouvez en revanche voir vos amis dehors, mais avec des distances, donc pas pour boire des bières ou manger autour d'un barbecue. Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche et pourfendeur de l'effet apéro, n'en démord pas. Le message « n'allez pas chez vos amis » n'était pas assez clair. C'est vrai que ça semble être bête, dit comme ça, « n'allez pas chez vos amis ». Mais en fait, c'est infiniment plus simple et plus responsabilisant qu'un formulaire en deux pages.
À n'en pas douter. Merci beaucoup, Olivier Boss. Si vous n'avez pas encore tout compris, le ministre de l'économie et de la relance, Bruno Le Maire, sera l'invité d'Alba Ventura dès 7h40 et le ministre répondra à vos questions à partir de 8h20. Appelez-nous dès à présent au 3210 pour le questionner et dialoguer avec lui. Bruno Le Maire, donc, dès 7h40, puis à 8h20 ce matin sur RTL. Dans un instant, la brigade de l'actualité. Nous allons vous parler du poids des syndicats à l'occasion du début des élections représentatives dans les petites entreprises. Et puis nous évoquerons aussi le blues des supporters de football privés de stade, avec souvent des tensions et de l'incompréhension. Reportage dans un instant sur RTL. Très bonne journée à tous, il est 7h15.
RTL Matin.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Il est 7h17. Le 30 janvier dernier se déroulaient les incidents au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Dégradation, intimidation. 14 personnes ont d'ores et déjà été jugées. Des leaders et des membres d'associations de supporters sont de nouveau devant la justice aujourd'hui. Ces dernières semaines, ces derniers mois, des clubs ont parfois vécu des moments très agités. Marseille, Nantes, Saint-Etienne, vous allez entendre des voix de supporters. Les raisons sont multiples. RTL se penche ce matin sur cette question. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour à tous.
Des supporters qui s'estiment délaissés, pas écoutés, qui ne sont pas majoritaires, mais qui se font entendre.
Oui, contestation, revendication, le fossé se creuse entre deux univers qui cohabitent plus qu'ils ne vivent ensemble, supporters et dirigeants. Tony a 25 ans, il est membre des Fanatiques, c'est l'une des 7 associations officielles de supporters de l'OM. Le ton est calme, mais on comprend.
Tu veux acheter quelque chose, il faut en payer le prix. Tu veux une ambiance, tu veux des supporters en fusion. Eh ben, des fois, la fusion, elle brûle. Des fois, ça pique, des fois, ça fait mal. C'est pour ça aussi que tout part en vrille. C'est parce qu'il n'y a plus d'identité. On se reconnaît dans rien. Ils veulent tous nous mettre dans un même moule. Non, non, non. On était là avant eux. On sera là après eux. On sera toujours là. Et oui, l'OM, c'est nous. Nous faisons partie du club comme le club fait partie de nos vies, de nous. Sans l'OM, je ne suis pas moi-même. Et l'OM, sans les gens comme moi, ne serait pas l'OM.
Le combat est noble, dit-il encore, légitime. Effectivement, cette radicalisation entrevue à la commanderie. À Nantes, où la famille Kita, Valdemar et Franck, père et fils, cristallisent les tensions, les supporters ont choisi de tourner en dérision la direction. Eric est un fidèle de la Beaujoire.
On est là parce que notre club fait partie du patrimoine. Le Football Club de Nantes, ça a été le fleuron de la ville de Nantes pendant 40 ans. Là, tout a été détruit. Et si on n'est pas là pour rappeler qu'à Nantes, on a une histoire particulière, eh bien, dans ce cas-là, autant ne plus aller au stade du tout.
C'est un problème de fond, insiste Nicolas Ourcade, sociologue, professeur à l'École centrale de Lyon.
C'est des questions extrêmement fortes sur est-ce qu'un club c'est uniquement une activité économique ou c'est aussi un bien social, historique, culturel? Est-ce que les supporters sont seulement des consommateurs comme de n'importe quel autre produit ou est-ce qu'au contraire c'est des acteurs du club? Et si c'est des acteurs du club, à quelles conditions ils peuvent s'exprimer de manière constructive pour qu'on sorte de certains rapports de force qui peuvent exister entre dirigeants et supporters et qui sont forcément néfastes?
Alors on entend souvent le club c'est nous, ce ne sont pas les dirigeants, c'est nous. Est-ce utopique de voir les supporters présents dans la gouvernance des clubs?
Alors ce n'est clairement pas culturel en France, oui. Contrairement à l'Espagne ou l'Allemagne, constat signé Joss, abonné depuis plus de 30 ans à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne.
Vous avez une notion de « je suis le propriétaire du club ». Le club, il est à moi, en fait. C'est moi qui mets le pognon, il est à moi. Ça, ça exclut les supporters. Et là, vous risquez une vraie fracture.
Les socios, l'actionnariat populaire, vous appelez ça comme vous voulez, c'est le projet depuis 10 ans d'Éric et de l'association à la Nantaise.
On peut aider le club par la voie de l'actionnariat populaire, entrer dans le capital. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des supporters qui soient dans le CA du club et qui soient une sorte de garde-fou. On peut accompagner un actionnaire majoritaire sur ses prises de décision, sur tout ce qui peut être marketing.
C'est un point d'achoppement. La Ligue, la LFP, n'est pas du tout favorable à ce modèle.
Alors, la pandémie n'arrange rien, Nicolas. L'absence de supporters en tribune, un éloignement physique qui finalement complique là aussi la situation.
Oui, parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs stades de Ligue 1, c'est ça que vous entendez. Ces fameux bandes-sons, oui. Ces chants enregistrés, l'OM, le PSG, Lille, Angers par exemple, ont cette pratique. La contestation s'est déplacée, le stade comme exutoire, précise Joss, n'existe plus.
Il n'y a plus cette espèce de « j'ai besoin de cracher mon truc », voilà. Donc c'est un peu larvé, quoi. Il n'y a plus ces points de contact, en fait. Ça renforce la distanciation. Ça renforce l'impression de plus être dans le club.
Les repères sont brouillés et c'est également pour cela que les prochaines semaines sont déterminantes, selon Nicolas Orcade.
La situation actuelle est extrêmement paradoxale. Elle prouve par l'absurde l'importance des supporters. Si le public peut revenir dans les stades dans des conditions antérieures relativement vite, on peut penser que finalement les choses se remettront en place et que les supporters reprendront le rôle qu'ils avaient auparavant. S'il y a des mesures extrêmement contraignantes, avec des mesures barrières extrêmement fortes, là, effectivement, ça bouleverse le spectacle du football et le rôle des supporters.
L'OM et ses groupes de supporters ont confirmé vendredi la normalisation de leurs relations après plusieurs semaines de crise. Mais le bilan de la tempête, le bilan de l'épisode n'a pas échappé aux instances du foot et au pouvoir public. Des débordements musclés qui, au final, ont entraîné le départ d'un président, d'un directeur général et du monsieur sécurité du club.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot avec nos correspondants Hugo Hamelin, Philippe Audouin et Raphaël Vantard qui rencontraient en fait des supporters intelligents.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h22, nous sommes avec notre brigade de l'actualité. On s'intéresse ce matin aux syndicats. Les salariés des très petites entreprises sont appelés à élire leurs représentants syndicaux. À partir d'aujourd'hui, ils ont jusqu'au 6 avril. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Ces élections concernent près de 5 millions de salariés, soit près d'un salarié du privé sur 4. Et pourtant, jusqu'à présent, elles sont très peu suivies.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Au dernier scrutin, il y a 4 ans, la participation avait été d'à peine plus de 7%. Le syndicat numéro 1 était la CGT, suivi de la CFDT, puis Force ouvrière. Et c'est vrai qu'un salarié d'une petite boulangerie, un maçon qui travaille seul avec son patron ou encore la nounou des enfants n'ont pas le réflexe, voire ne voient pas l'intérêt de voter pour des syndicats qu'ils croisent très rarement au quotidien. Pourtant, l'enjeu est grand. Les représentants conseillent, défendent les salariés qui les appellent et ils négocient aussi les salaires et conditions de travail à l'échelle d'un secteur professionnel. C'est un enjeu d'autant plus grand que depuis un an, entre les confinements, le télétravail et le chômage partiel, la crise sanitaire a fait bouger les lignes du droit du travail et notamment dans les TPE.
Alors ça pose la question de la représentativité des syndicats dans notre pays. Vous parlez des très petites entreprises, mais si on élargit à toutes les sociétés, c'est pareil. Il y a peu de salariés syndiqués.
Oui, c'est vrai. Seul un employé sur 10 adhère à un syndicat. Ce sont des statistiques du ministère du Travail. Le secteur public s'en sort mieux, mais dans le privé, le taux de salariés syndiqués tombe à 8,5%.
Et pourtant, ces syndicats restent les interlocuteurs privilégiés des entreprises et du gouvernement.
Bien sûr, bien sûr, à chaque concertation, négociation, accord qui inclut les salariés, à chaque étape, il y a les syndicats. Rien qu'en 2019, plus de 100 000 accords et textes d'entreprise ont été signés. Au niveau des branches professionnelles, la Direction Générale du Travail relève plus de 1000 accords. Et au niveau national, en 2020, on peut retenir le Ségur de la Santé, avec notamment des augmentations de salaire pour les soignants. Et puis, il y a eu 2 accords interprofessionnels sur le télétravail et sur la santé au travail. Tous ces accords-là qui s'appliquent, ils valent pour tous les salariés, qu'ils soient syndiqués ou non.
Donc voter pour un salarié, c'est aussi mettre en avant le syndicat qui nous correspond le plus, c'est
ça ? Oui, c'est pour cela que le ministère du Travail lui-même incite les salariés des TPE à voter. Parce qu'avoir des élus syndicaux qui représentent vraiment les salariés, c'est la base d'un dialogue social utile aux employés, aux responsables et finalement aux entreprises du pays.
Et on vote, si on le veut, jusqu'au 6 avril. Merci beaucoup Anaïs Bouissou de la Brigade RTL. À 7h30, nous retrouverons, vous le savez, Isabelle Choquet pour le Tout Info. Auparavant, la météo avec Louis Baudin que je salue.
Bonjour Yves.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier dans un instant et une nouvelle pépite avec Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À tout de suite.
Oui, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h25, on retrouve avec plaisir notre pépite musicale quotidienne. Bonjour Anthony Martin.
Rebonjour. Alors, je vous propose un tour de passe-passe ce matin. 3 chansons de 3 artistes différents qui reposent sur la même musique et la même rythmique.
Ah bon ?
La musique en question au départ est née au printemps 67 aux États-Unis sous la forme d'un instrumental composé par 4 musiciens du label Stax, les Booker T and the MGs. Le titre de cette musique, Hip Hug Her. Bon, vous l'avez bien en tête, hein?
Oh oui!
Bon. En France, en 1967, il y en a un qui repère cette musique. Il s'appelle Serge Gainsbourg. Il dit rien à personne et il offre une chanson à Claude François qui a pour titre Hippipipoura. Sur le disque, paroles et musique Gainsbourg. Ben, c'est faux! Écoutez, la musique n'est autre que l'instrumental qu'on vient d'entendre.
La politique de la femme brûlée.
souhaite une pépite à lui seul. Hein. C'est un titre machiste et cynique, assez décalé pour Clo-Clo, mais ça va plus loin. Deux mois plus tard, Serge Gainsbourg s'occupe de lui cette fois. Il s'écrit une chanson qui a pour titre Chatterton, crédité par Relais Musique Gainsbourg. C'est faux! Écoutez.
Chatterton, suicidé. Hannibal, suicidé. Démosthène, suicidé.
Voilà, c'est magique et c'est pas fini. Trois ans après, Claude François produit le premier 45 tours de son copain acteur Patrick Topalov. Et en face B, on trouve une chanson sketch assez calamiteuse qui s'appelle Oulala, signée Clo-Clo. Mais c'est faux, Clo-Clo a refourgué l'instrumental, il l'a juste accéléré.
Oulala, 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 oulala,
Vicky Gautier,
non mais je vous en râle.
C'est comme ça pendant 2 minutes 30, c'est assez calamiteux.
Voilà, moi je suis très Topalov.
Ouais, mais c'est merveilleux. Trois chansons en 3 ans, les musiciens du groupe Booker T and the MGs n'apparaissent sur aucun des morceaux en tant que compositeur, ils n'ont donc reçu aucun centime, rien pour ça, c'est dû au vol.
C'est à la limite de Salvador, non?
Salvador, ça a swingé un peu
oui,
plus.
Oui, vous avez raison. Merci beaucoup, Anthony. Bon, on a passé un très bon moment. Et rendez-vous demain matin.
À demain.
Une nouvelle piste. Les grosses têtes, c'est lundi, c'est la reprise et donc le retour dans le grand studio de nos grosses têtes. Quoi de mieux pour lancer la semaine que quelques fake news?
Scoop, la retransmission a été interrompue à cause du JT de 20h, mais en fait Jean Castex serait encore à l'heure qu'il est en train d'expliquer les dernières mesures.
Valérie Mérès.
Olivier Véran, ministre de la prison, va déménager son ministère à la santé.
Ariel Dombal.
C'est Emmanuel Macron qui en a décidé ainsi. On pourra sortir sans limite de temps, sauf Jean-François Delfraissy, que le président n'a toujours pas autorisé à sortir de son placard.
C'est vrai qu'on ne le voit plus.
Non, on voit plus.
J'ai l'impression qu'on reverra Dupont de Ligonnès avant Delfraissy. Jérémy Ferrari.
Le Premier ministre Jean Castex s'est fait vacciner cet après-midi avec le vaccin AstraZeneca. Emmanuel Macron espère une thrombose avant la présidentielle.
Vous retrouvez toute l'équipe de Laurent Ruquier dès 15h30. Le sourire est sur votre visage. La météo est-elle souriante?
Oui. Est-ce que vous avez un baromètre, Yves?
Non.
Eh ben non, sinon vous verriez que la pression est en train de monter. Donc c'est-à-dire que l'anticyclone revient s'installer sur la France. Oui. Donc anticyclone, ça veut dire temps sec. Ça y est, c'est déjà fait. Et normalement du soleil. Bon, ça faudra un peu de patience, mais cet après-midi, le soleil reviendra quasiment partout. Il restera quelques nuages au nord de la Seine et dans le nord-est, mais avec là aussi des éclaircies. Et ailleurs, c'est le soleil qui s'imposera avec encore un peu de mistral et de tramontane. Et puis côté température, ah bon là ça reste un peu froid, hein. Il y a encore des gelées fréquentes du centre au nord et au nord-est, et cet après-midi 7 à 10 degrés seulement dans ces régions du nord-est, région Rhône-Alpes, là il manque des degrés, 10 à 11 degrés dans les autres régions de la moitié nord, pareil, c'est encore un peu froid, 11 à 15 degrés dans la moitié sud et 15 à 16 près de la Méditerranée.
Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas de baromètre, parce que j'ai Louis Bodin comme tous les auditeurs d'RTL.
Merci.
Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre l'actualité de ce lundi 22 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Ceci n'est pas un confinement. Le gouvernement a tenté tout le week-end d'expliquer les nouvelles restrictions en vigueur dans 16 départements. Alors le mot d'ordre n'est plus « restez chez vous » comme au printemps dernier, mais chacun chez soi, ou alors dehors, mais avec gestes barrières. Il fallait une attestation, il n'en faut plus. Enfin, ça dépend. Les magasins non essentiels sont fermés, sauf ceux qui peuvent ouvrir. À la fin, les Français sont un peu perplexes, écoutez.
Tout le monde est dehors, personne n'a de masque. On peut sortir tranquillement dans les 10 km sans attestation. On a gagné une heure le soir, en plus. C'est pas un confinement, c'est la bérésina totale. C'est un cafouillage sans nom. On ferme les instituts de beauté, mais on ouvre les coiffeurs et les barbiers. Enfin, bon, je trouve que c'est un petit peu tout et n'importe quoi.
On sait pas très très bien si on doit rester, rentrer, remplir une attestation pour aller où et quoi faire, etc. Vous ne comprenez plus rien.
Pensez-vous qu'au gouvernement, ils comprennent? Je pense qu'ils comprennent rien non plus. Et donc, ça fait bien longtemps.
Pour résumer, c'est vraiment une histoire de pieds nickelés.
l'un des franciliens désemparés au micro RTL de Gauthier de Lombugard.
À 7h40, Bruno Le Maire est l'invité d'Alba Ventura et à 8h20, vous pourrez interroger le ministre au 3210 ou au 64 900 code matin.
Alors l'idée générale, c'est d'éviter les regroupements. Visiblement, le message n'est pas passé à Marseille où 6500 personnes ont célébré hier le carnaval de la plaine à deux pas de la Canebière. 6500 personnes, essentiellement des jeunes, déguisés, mais sans masque.
C'est hyper important pour nous de pouvoir participer à ce genre d'événements qui nous font juste vivre et profiter de notre quotidien. Parce que la liberté, c'est quelque chose qu'on prend et qu'on ne nous propose pas forcément en ce moment. Donc évidemment qu'on la prend quand on nous la propose. Et surfons sur cette vague pour pouvoir profiter de ces événements-là, quoi.
Un propos recueilli par Étienne Baudu. La police n'est pas intervenue ou alors uniquement pour des dégradations. Je suis en colère. Voilà ce qu'a déclaré sur Twitter le maire de Marseille, Benoît Payan. Rien ne justifie qu'on détruise les efforts collectifs.
L'effort collectif passe aussi par le télétravail.
4 jours sur 5, c'est ce qu'a demandé Jean Castex. Encore faut-il que les entreprises y mettent de la bonne volonté. Et ce n'est pas toujours le cas selon Laurent Berger. Le leader de la CFDT était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI hier.
Je pense qu'il faut désigner ceux qui ne jouent pas le jeu, en toutes circonstances. Une entreprise qui n'a pas joué le jeu depuis le début sur à peu près tout, c'est SFR. Elle n'a pas joué le jeu du premier confinement parce qu'elle a continué à faire venir des gens. Il y avait des salariés en télétravail, mais on les déclarait en activité partielle longue durée. Et aujourd'hui, ils suppriment les emplois alors que c'est une entreprise qui a fonctionné et a eu beaucoup de rentabilité en 2020.
Laurent Berger qui demande par ailleurs que les salariés les plus exposés au Covid soient prioritaires pour la vaccination. Il parle notamment des enseignants ou des employés de la grande distribution. La vaccination, c'est ce qui va changer la donne selon Olivier Véran. Des vaccinodromes vont être mis en place dans plusieurs villes. En région parisienne, le Stade de France devrait ouvrir ses portes le 1er avril. Objectif, 10 000 vaccinations par semaine. Et en attendant la vaccination de masse, il nous reste les tests, indispensables actuellement si l'on veut voyager. Et justement, Air France et le groupe Aéroports de Paris viennent de lancer une expérimentation de passeport sanitaire entre Paris et Los Angeles, San Francisco, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Reportage RTL signé Arnaud Touche.
Fraîchement débarqués d'un vol depuis San Francisco, les quelques rares passagers sont guidés par du personnel d'aéroport de Paris.
Messieurs, dames, bonjour, sortie bagages, par ici sur votre gauche.
Et depuis une semaine, une file rapide est dédiée à ceux qui utilisent un certificat électronique, un code numérique qui contient le résultat du test PCR. Philippe est l'un des premiers utilisateurs.
C'est une très bonne idée pour les gens qui voyagent en ce moment.
Pour utiliser ce code, il a dû se faire tester dans un laboratoire qui s'est occupé de tout. Un gain de temps certain pour Emmanuel Ferracci, en charge du projet chez Air France.
Avec un certificat papier, l'agent d'embarquement doit contrôler chacune des caractéristiques du test sur un format qui n'est absolument pas standardisé et qui peut être dans n'importe quelle langue. Avec un QR code, c'est une réduction du temps de contrôle et donc la fluidification de l'embarquement pour nos clients.
Mais pour Philippe, le passager, l'application doit être améliorée.
Il faut ajouter aussi pour les vaccins.
Une piste sérieusement envisagée par Sébastien Bédu, le chef de produit chez AOK Pass.
Si demain les réglementations changent sous l'égide des gouvernements, technologiquement parlant, AOK Pass sera prêt pour accepter la vaccination.
L'expérimentation de ce pass sanitaire va durer un mois, mais Air France envisage déjà de le proposer pour la majorité de ses vols d'ici l'été.
Les explications RTL d'Arnaud Touche. Les images ont fait le tour du monde. L'Arc de Triomphe saccagé en marge d'une manifestation des Gilets jaunes le 1er décembre 2018. Le procès débute aujourd'hui, mais seulement 4 personnes comparaissent pour des faits mineurs. Autre procès, celui d'IKEA. Le géant suédois et d'anciens responsables sont jugés pour s'être renseignés sur des salariés de manière totalement illégale, par exemple avec l'aide de policiers ou de sociétés de sécurité.
7h35, le foot. Paris est de nouveau le patron.
Oui, le PSG l'a emporté sur Lyon 4-2 en clôture de la 30e journée de Ligue 1, 4 buts dont un doublé d'Mbappé qui atteint ainsi à 22 ans la barre des 100 buts inscrits en championnat. De son côté, Lille s'est fait surprendre à domicile par Nîmes, vainqueur 2-1. Lyon reste lui sur la 3e marche du podium talonné par Monaco. Et puis ça y est, c'est le printemps Yves, c'est la saison des amours et c'est ainsi qu'aux eaux de Beauval, monsieur et madame Panda ont recommencé à faire des galipettes. Ah, c'est très important car la femelle panda n'est féconde que 24 ou 48 heures par an. Oui. Précision de Rodolphe Delors, le directeur du zoo.
Depuis plusieurs jours, nous avons vu le comportement de nos deux animaux évoluer. La femelle faire beaucoup plus de rouillades que d'habitude, clairement amoureuse. Et mâle également, c'est pour ça que nous avons décidé de les mettre ensemble. Les ébats étaient bons, les accouplements étaient bons, mais pas suffisamment longs, si vous voulez. Parce que, encore une fois, les mâles pandas ont une libido extrêmement faible. Ce n'était pour nous pas suffisant. Donc nous avons décidé d'inséminer la femelle afin d'assurer le coup et de ne pas reporter ça à dans un an.
Le directeur
du... comme expression, assurer le coup.
Assurer le coup, effectivement. C'était le directeur du zoo de Beauval au micro de Sébastien Rouxel.
Et c'était le Tout Info qui nous était présenté par Isabelle Choquet. On vous retrouve 8h40, ce sera pour la face cachée de la Une.
Oui, ce sera la face cachée de la tapisserie de Bayeux, un joyau du Moyen-Âge qui a besoin d'un petit coup de frais.
Très bien. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
My Taylor is rich, c'est ce que ne diront plus les candidats au concours d'entrée de l'École nationale d'administration.
Et oui, parce qu'il est question de supprimer l'épreuve d'anglais au concours de sélection des candidats futurs aux fonctionnaires. Vous allez voir que ça en dit long sur leur formation de notre élite administrative. Oui. C'est encore illustré brillamment ce week-end avec un morceau de bravoure, l'attestation à 15 tiroirs. A tout de suite.
A tout de suite pour l'Anglais Co avec François Langlais.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Anglais Co avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
La réforme du concours d'entrée à l'ENA, l'École Nationale d'Administration, fait actuellement débat.
Oui, l'ENA c'est notre fabrique à élite. Mmh. C'est une école qui prépare, comme son nom l'indique, à la haute fonction publique. La quasi-totalité des directeurs d'administration en France sont passés par l'ENA, ainsi que de nombreux conseillers de ministres, voire de ministres, même de présidents, hein, Macron, Hollande, Chirac, Giscard, Premier ministre, Édouard Philippe. Oui. En sont issus. Et voici que l'ENA est en révolution. Elle cherche à diversifier ses recrutements pour mieux refléter la société française. En clair, pour ne pas sélectionner que des bourgeois, souvent eux-mêmes enfants de la classe dirigeante. Elle veut donc changer son concours d'entrée. Louable intention qui débouche sur des idées parfaitement saugrenues.
Comme d'habitude.
Supprimer l'épreuve de culture générale, par exemple, parce que celle-ci induit un biais social. Ou encore plus saugrenu, supprimer l'épreuve d'anglais qui a été introduite pendant le quinquennat Hollande.
Attendez, on a du mal à comprendre là.
Ben, c'est une idée d'Amélie de Montchalin qui est la ministre de la transformation de la fonction publique. Ouh. L'anglais, c'est de la sélection sociale.
Ah bon.
Parce que ça favorise encore les favorisés, ceux qui ont pu être envoyés par leur famille faire des séjours linguistiques outre-Manche ou outre-Atlantique. Quand on entend des choses comme ça, on a envie de faire une nouvelle proposition pour réformer. Supprimons le concours d'entrée aux grandes écoles et remplaçons-le par un tirage au sort national, télévisé, présenté par Jean-Pierre Foucault, après celui du loto, gagner un diplôme de l'ENA, numéro complémentaire pour HEC. Alors là, on serait sûr qu'il n'y aurait aucun biais social.
Non.
Ça serait le monde merveilleux d'Amélie de Montchalin.
Bon, on se moque, mais c'est quand même un vrai problème, la reproduction sociale.
Non, c'est vrai que c'est un problème. Mais est-ce qu'on le traite en déqualifiant complètement le concours et les candidats ?
Bien sûr que non.
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux créer des filières d'accès spécifiques ? Ce que l'ENA envisage d'ailleurs, hein, avec les classes talents. Et sur le fond, une question pointe quand même. Quand on voit les aberrations de la gestion de la crise sanitaire par l'État, on se demande quand même si la priorité, c'est la diversité du recrutement.
Alors, où est la priorité selon vous ?
Bah, est-ce que ça ne serait pas de se concentrer sur la réforme de l'enseignement dispensé par l'ENA ? Pour apprendre aux élèves, par exemple, qu'une attestation de sortie avec 15 motifs, c'est délirant. Que permettre la vente des pyjamas pour les enfants de moins de 2 ans en interdisant celle des pyjamas pour 3 ans, c'est un défi à l'entendement. Que considérer les disquaires comme des magasins essentiels alors qu'ils ont disparu depuis 20 ans, c'est surréaliste. Mieux vaudrait en un mot apprendre aux futurs fonctionnaires le bon sens. J'ajoute que cette affaire de l'anglais au concours, elle est assez symptomatique du peu de cas que la France et ses élites font de l'extérieur. L'anglais, c'est quand même une fenêtre sur le monde.
Mais oui.
C'est la possibilité de se comparer aux autres pays, de tirer profit des expériences étrangères. Faire du benchmark, comme on dit en bon français, ça ferait un grand bien à notre fonction publique et probablement encore un bien supérieur aux administrés que nous sommes.
Le message a été très clair. François Langlais que l'on retrouve sur le site RTL.fr. À demain matin, François. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Ouvert, fermé, essentiel, non essentiel. On va essayer d'y voir un peu plus clair.
À tout de suite avec le ministre de l'économie.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Alba Ventura.
Vous, quel mot vous vient à l'esprit pour décrire la situation ? Parce qu'on a compris que confinement, il ne fallait plus l'utiliser.
C'est un renforcement des règles qui étaient en usage jusqu'à présent. Après, je ne suis pas sûr que les Français se passionnent pour ce débat sémantique. Ce qui compte pour eux, ce qui compte pour nous tous, c'est que nous sortions le plus vite possible de cette période où nous sommes depuis maintenant novembre. Depuis novembre, les Français vivent soit en confinement, soit avec un couvre-feu. Et c'est pénalisant. Il y a une immense lassitude en France face à ces mesures de restrictions sanitaires. Donc ce qu'attendent les Français, ce n'est pas un débat sémantique, c'est qu'on en sorte le plus vite possible, qu'on mette le virus derrière nous. Et pour ça, il y a une seule solution. Et je suis content que chacun en prenne conscience. c'est la vaccination de masse et la vaccination accélérée.
On va bien sûr en parler. Alors, ils ne se passionnent peut-être pas, les Français, pour le débat sémantique, comme vous dites, mais on les a entendus ce matin sur RTL et très largement, ils n'y comprennent rien. Hein, c'est Kafka, disent-ils, et il n'y a qu'à voir cette attestation de 2 pages avec 15 motifs de déplacement qui a finalement été supprimée. Toutes ces mesures hybrides, puisque c'est comme ça que... Vous les comprenez, vous ?
Je les comprends, puisque nous les avons adoptées avec le Premier ministre.
Mais comment on peut en arriver à dire c'est OK pour les coiffeurs et c'est pas OK pour les instituts de beauté, par exemple ?
Ce que nous avons voulu faire, c'est d'abord limiter la circulation des personnes dans des lieux clos. Donc nous avons fermé les centres commerciaux de plus de 20 000 m², 10 000 m² pour les départements qui sont sous surveillance renforcée. Nous avons voulu limiter encore plus cette circulation en fermant un certain nombre de commerces. Et c'est extrêmement pénalisant pour eux.
Mais
et
vous y étiez favorable, complet. Vous, ministre de l'économie ?
Moi, je suis dans un gouvernement, Alba Ventura. Et donc, je suis solidaire de toutes les décisions d'un gouvernement.
J'ai cru comprendre que vous auriez préféré que les week-ends soient fermés. Vous.
Mais mes préférences, que je peux exprimer en conseil de défense, qui malheureusement sort dans la presse, ce que je regrette profondément, ça ne regarde que les membres du conseil de défense. Le président de la République, le Premier ministre et les autres ministres. Une fois qu'une décision est arrêtée, que les choses soient bien claires. Elles engagent tout le gouvernement, sans exception. Donc nous avons pris des décisions, une fois encore, pour limiter les regroupements de personnes dans les commerces. Nous avons fermé un certain nombre de commerces, et je veux le dire très clairement là aussi, c'est un déchirement de fermer ces commerces. Bien sûr que, comme ministre de l'économie, j'aimerais que tous les commerces soient ouverts. Mais si nous voulons limiter la circulation du virus, il faut aussi limiter le regroupement des personnes dans un certain nombre de commerces. Nous avons fait des exceptions. Pourquoi ? Mais tout simplement pour le moral des Français. C'est le cas pour les coiffeurs. Nous l'avons fait parce qu'il y a des professions, prenez les fleuristes, ils font la moitié de leur chiffre d'affaires pendant cette période de printemps, et derrière, il y a toute l'horticulture. Nous l'avons fait pour les chocolatiers parce que c'est Pâques. Je ne dis pas que c'est parfait. Et je le reconnais très volontiers. Ne dis pas que c'est parfait.
En toute honnêteté, je reconnais vous pensez bien que ça aura un impact sur la situation sanitaire, en toute honnêteté.
Je pense que toutes ces mesures permettront d'éviter les regroupements de personnes dans des lieux clos. Donc je suis persuadé qu'elles auront un impact sur la situation sanitaire. Est-ce que cet impact sera suffisant ? Je ne le sais pas, parce que je ne suis pas épidémiologiste. Mais je pense qu'autoriser les Français à sortir pour prendre l'air, en évitant qu'ils se regroupent dans des magasins, dans des grandes surfaces, dans des grands centres commerciaux, c'est la solution que nous avons trouvée. C'est une solution de compromis. Je n'ai pas la prétention qu'elle soit idéale. Et nous accompagnerons chacun des commerces qui est condamné aujourd'hui à la fermeture.
Je vais vous soumettre 2 cas parce que, par exemple, un des patrons d'un groupe d'instituts de beauté vous a interpellé ce week-end dans la presse en demandant ironiquement si, entre un coiffeur et une esthéticienne, c'était une question de poils. Que lui répondez-vous ? Pardon pour la question, mais elle vaut le coup d'être posée.
La question, elle est parfaitement légitime. Le soin de soi, c'est très important. C'est pour ça que nous avons autorisé l'ouverture des coiffeurs. Je comprends parfaitement la remarque de tous les salons d'esthétique qui aujourd'hui me disent, je les ai écoutés tout ce week-end, certains ont mon numéro de téléphone, d'autres savent me trouver pour me dire, mais attendez, pourquoi est-ce que nous sommes fermés alors que les autres restent ouverts ? Nous allons regarder chacune de ces situations. Là encore, nous allons regarder chacune de ces situations pour voir, comme l'a dit le ministre des PME hier, s'il y a des situations qui doivent être corrigées. Je pense que nous avons montré depuis le début de cette crise, dans le traitement de la crise économique et financière, qu'à chaque fois qu'il fallait corriger quelque chose, parce que soit ça paraissait injuste, soit ça paraissait peu efficace, nous l'avons fait. Donc ma porte n'est pas fermée. Nous regarderons s'il y a effectivement des choses qui peuvent être améliorées et nous verrons quelles décisions prendre.
Quand, monsieur le ministre ?
Parce
qu'effectivement, Alain Griset a parlé d'aberration.
Je vais vous dire, depuis ce week-end, j'ai eu des contacts permanents avec des salons d'esthétique, avec des coiffeurs qui nous expliquaient comment est-ce qu'ils allaient faire, avec des restaurateurs qui s'inquiètent sur leur date d'ouverture. C'est mon quotidien, c'est ma responsabilité, je vais vous dire, c'est mon honneur d'écouter toutes ces personnes pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux leur répondre. Donc nous allons regarder chacun de ces cas. Je ne peux pas vous dire quelles seront les décisions qui seront prises. Je peux simplement vous dire que je garderai le même esprit de dialogue et d'ouverture qui m'anime depuis le premier jour de cette crise.
Alors j'ai un autre cas à vous soumettre. Le maire de Compiègne dans l'Oise, Philippe Marigny, a autorisé par arrêté municipal ses commerçants à vendre sur le trottoir, donc devant leur boutique. Mais la police a finalement tout fait remballer. Cela vous paraît absurde ce qu'a fait Philippe Marigny ?
Puisqu'après
tout, il y a des marchés en extérieur.
Ce que je crois surtout, c'est que nous sommes dans une période qui est difficile. Chacun le mesure. chacun le mesure, je le redis, la très grande lassitude des Français. On ne s'en sortira qu'ensemble. C'est-à-dire si chacun fait preuve de sens de responsabilité, n'essaye pas d'inventer le petit truc ici ou le petit truc là qui pourrait marcher un peu mieux.
Il faut les gens n'essaient pas d'inventer, on leur dit tout ce qu'on peut faire dehors, alors ils le font.
Il faut que collectivement nous soyons responsables. S'il y a des idées intéressantes, qu'on les soumette et qu'on les adopte collectivement, mais la France ne s'en sortira que unie et rassemblée. Et certainement pas en inventant des choses ici ou là sans qu'elles aient été adoptées collectivement. Personne n'a des solutions faciles. Personne ne peut s'en sortir tout seul. Regardez ce qui se passe en Europe. On voit bien que dans les autres pays européens, là aussi, j'étais en Italie la semaine dernière, l'Italie a été obligée, contre son gré, de reconfiner. L'Allemagne, qui est en confinement depuis des semaines, qui pensait pouvoir lever les restrictions, a dû les maintenir. Donc il n'y a pas de solution facile.
Donc vous dites, on fait ce qu'on peut.
Bien sûr, on fait ce qu'on peut. On fait le mieux possible. Et si il faut améliorer le mieux, nous améliorerons le mieux possible que nous essayons de faire. Je le redis, je n'ai absolument pas la prétention, ni sur les questions économiques, ni sur les questions financières qui sont de ma responsabilité, que nous fassions tout, toujours, parfaitement. Je dis simplement qu'on essaye de faire le mieux possible avec mes équipes.
Vous avez déjà envisagé des schémas de réouverture pour dans 4 semaines, monsieur le ministre ?
Oui, il y a des schémas de réouverture qui sont à l'étude. Il y a des modalités avec l'utilisation des QR codes lorsqu'on se rend dans un commerce, dans un restaurant ou dans des lieux culturels. Donc on travaille là-dessus, mais ça ne sera possible, chacun en a conscience, que lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. Moi, je pense à tous ces soignants aujourd'hui qui, au moment où nous parlons, sont en train d'accueillir dans les salles de réanimation 1, 2 ou 3 nouveaux patients qui sont inquiets de la saturation et qui se disent « est-ce qu'ils ont conscience de cela ?» Je comprends ces soignants et c'est pour cela que nous prenons ces mesures.
Les magasins de vêtements et de chaussures se retrouvent avec des stocks sur les bras. Est-ce que là, vous avez déjà envisagé des choses pour les aider, des facilitations de paiement ou une manière d'écouler leurs stocks ?
Oui, nous avons commencé à réfléchir là-dessus. Alain Griset doit me faire des propositions. Travaillons sur 2 options qui peuvent être complémentaires. D'ailleurs, la liquidation des stocks, qui normalement n'est possible qu'en période de solde. Nous pourrions autoriser la liquidation des stocks, y compris si nous ne sommes pas en période de solde. Et puis pour tous ceux pour lesquels l'indemnisation du fonds de solidarité ne serait pas suffisante, même si elle est déjà très généreuse, voir s'il peut y avoir des compensations financières. Donc nous travaillons sur ces 2 options qui, je le redis, sont complémentaires.
Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des soldes au mois d'avril ou mai, par exemple?
Ça voudrait dire que les commerçants pourraient être autorisés à liquider leurs stocks alors même que nous ne sommes pas en période de solde.
Vous avez dû remettre au pot sur les aides, sur les charges, sur les loyers ? Ou est-ce qu'on continue avec les mêmes aides qui
non,
sont prévues ?
Non, on continue avec les mêmes budgets qui a été prévu, mais nous avons complété effectivement là où il y avait encore des lacunes. Je pense par exemple à tout ce qui est couverture des charges fixes. À partir du 31 mars, l'intégralité des charges fixes pourront être couvertes pour les entreprises de plus d'1 million d'euros des secteurs du tourisme et de la restauration, avec une indemnisation qui pourra aller jusqu'à 10 millions d'euros. Et on a mis dans ce dispositif charges fixes disponible au 31 mars un certain nombre d'activités. Je les ai complétées. Il y avait à l'origine les eaux, il y avait les thermes. On a rajouté les parcs à thème, comme par exemple Vulcania en Auvergne, parce qu'ils souffrent terriblement du manque de visiteurs. On a rajouté les escape games, pour être tout à fait précis. Donc on essaye à chaque fois d'accompagner tout le monde et de trouver des solutions adapté à chacun.
Bruno Le Maire, monsieur le ministre, avec le télétravail, plusieurs entreprises en ont profité pour supprimer les tickets resto. Une économie de petits bras, c'est ce qu'a dénoncé hier Laurent Berger de la CFDT au grand jury RTL. Il a raison.
Nous allons aujourd'hui, avec Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, puis avec le patron de la CME, que je recevrai cet après-midi, regarder toutes ces questions. Il y a la question des tickets restaurants, il y a la question du télétravail, où bien sûr qu'il y a, là encore, une fatigue de tous ceux qui sont concernés par le télétravail, mais il y a aussi le besoin de tenir nos objectifs, de maximiser le nombre de personnes qui sont au télétravail. Donc je vais regarder toutes ces questions dès cet après-midi avec le patron du MEDEF et le patron de la CPME, avec lesquels je tiens à dire, on a travaillé en bonne intelligence depuis le début.
Alors évidemment, tous les espoirs reposent sur la vaccination. Hein, vous l'avez dit hier soir, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur chargé de la stratégie vaccinale au niveau européen, a promis une immunité collective pour le 14 juillet dans toute l'Europe. C'est jouable ça ?
S'il le dit, c'est que ça doit l'être. En tout cas, ça doit être
objectif. Vous y croyez donc ?
Moi, je vais vous dire, je crois surtout à la capacité de rebond de l'économie française. Et je suis convaincu que si on regarde un tout petit peu plus loin que la journée immédiate ou la semaine à venir ou les difficultés actuelles, et qu'on se projette un peu plus loin. D'abord, il faut se dire que nous avons réussi à produire en quelques mois un vaccin qui normalement met des années à être produit. Mmh. Que nous sommes en train de le délivrer, que nous accélérons sa délivrance avec 10 millions de doses de personnes vaccinées prévues pour le 15 avril, 20 millions pour la fin mai. Et que nous pouvons avoir l'espoir que, effectivement, à l'été, nous retrouvions tous ensemble une vie normale. Et qu'à ce moment-là, parce que c'est ma conviction profonde, l'économie française surprendra par sa capacité de rebond, de création d'emplois, d'innovation. Mmh. Et quand on regardera encore un peu plus loin, je suis convaincu qu'au lendemain de cette crise, nous allons pouvoir inventer une économie qui sera
mais
plus juste, plus décarbonée et plus compétitive. Je comprends qu'aujourd'hui, chacun soit à 24 heures près.
Exactement.
Je demande
en
juste
attendant, les gens
à chacun,
veulent être
mais
vaccinés.
C'est ma responsabilité politique d'Alba Ventura de voir un tout petit peu plus loin que le bout de mon doigt.
Bien évidemment.
Et de regarder un peu plus loin pour dire aux Français, cette crise va être aussi une opportunité pour inventer collectivement avec nos partenaires européens
Bruno
un modèle
Le Maire,
économique
vous
qui
avez
nous donnera plus d'indépendance, plus de force et une économie plus verte.
Bruno Le Maire, à un moment dans votre vie, vous avez eu envie d'être président de la République. Vous êtes présenté même à la primaire de la droite. Anne Hidalgo hier a appelé à débrider. Donc ces questions, forcément, vous les avez à l'esprit. Anne Hidalgo hier a appelé à débrider la campagne de vaccination. Il y a aujourd'hui un débat parlementaire à l'Assemblée parce que ça ne tourne pas rond au niveau de la vaccination. Il faudrait peut-être des logisticiens. Est-ce qu'il faudrait que les vaccinodromes soient ouverts 24 heures sur 24, comme aux États-Unis par exemple? Est-ce que il faudrait que ce soit géré par l'armée, par la sécurité sociale ou bien par les pompiers? C'est toutes ces questions qui se posent. Vous avez quand même des réponses, vous?
D'abord, ces questions sont légitimes. Ensuite, des réponses, je n'en ai pas. Et je n'ai pas à en avoir. Parce que je pense que c'est bien que le ministre de l'économie et des finances et de la relance se concentre sur l'économie, les finances et la relance. En revanche, je trouve très bien qu'il y ait un débat sur ces sujets. Il y aura aussi un débat ce soir à l'Assemblée nationale sur un sujet qui me tient très à cœur, qui est celui de la dette, et de la dette publique française. C'est très bien, c'est une grande démocratie, la France. Donc il est légitime que nous ayons ces débats, et sur la vaccination, qui n'est pas de mon ressort, et sur la dette, qui, elle, est de mon ressort, et où je ferai, dès ce soir, des propositions pour éteindre la dette sur le long terme.
Merci beaucoup, Bruno Le Maire.
Je suis solidaire de mon gouvernement. Une fois que les décisions sont prises, ce sont par définition des choses qui peuvent être améliorées, vient de nous dire Bruno Le Maire. La France ne peut s'en sortir qu'avec des mesures commune et concertée. Bruno Le Maire qui annonce une réflexion sur les liquidations de stocks hors période de solde. Hors période de solde pour nos magasins. On vous retrouve, monsieur le ministre, à partir de dans une trentaine de minutes, puisque vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Ils vous les posent au 3210 pour le standard et par SMS avec le code matin au 64-900. Donc, retour de Bruno Le Maire dès 8h20 sur RTL pour répondre à toutes vos questions. Dans un instant, Cyprien Sini surfe avec l'attestation, enfin, ou la non-attestation. C'est au choix.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
7h57, vous ne pouviez pas surfer sur autre chose que le micmac, bien entendu, de l'attestation.
Et oui, car tout le week-end, la France a pu découvrir les experts simplification.
Des mesures de simplification. Nous irons vers davantage de simplification.
Mais oui, Jean Castex et les experts simplification. Bon alors déjà, quand jeudi, le chef du gouvernement annonce
Des mesures de confinement.
Et que deux jours plus tard, son porte-parole explique
C'est pas un confinement.
On se dit que cette affaire, c'est quand même bien mal parti. Mais alors, samedi matin, quand on découvre
une attestation de deux pages.
Deux pages, 15 dérogations.
Deux longues pages. On retrouve 15 motifs.
Des attestations de deux pages, 15 motifs, avec écrit dessus.
Dans les départements soumis à des mesures renforcées, les déplacements ne sont autorisés qu'au sein du département ou d'un périmètre défini par un rayon de 30 km autour du lieu de résidence, sauf pour les items signalés par un astérix sur la présente attestation, ainsi que pour les déplacements autorisés, blablabla.
Et là, sur tous les plateaux, radio, télé, on envoie au feu la porte-parole du ministère de l'Intérieur, un peu désœuvrée, obligée de faire un peu comme elle peut, en boucle.
Alors je vous l'accorde, l'attestation est un peu complexe.
Cette attestation est complexe.
Non, par exemple, le dénommé Marco sur BFM TV, bon bah lui on sent qu'il a tout capté. Hein.
Déjà il y a 15 articles et faut reprendre avec la petite étoile qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On peut faire 10 km, en fin de compte, on peut faire 30 km à condition.
Ouais, bon, c'est bon, te cache pas, Marco. De toute façon, personne. Non, c'était le matin, il était en pleine forme.
Marco, il était en forme.
Personne n'y comprend rien. Attestation retirée pour les moins de 10 km. Et pour le reste, eh ben, on n'a qu'à demander au ministre, pardi, ceux qui l'ont faite. Alain Griset, ministre des PME sur RTL. Est-ce qu'on peut faire ses courses à 30 km?
Il est évident qu'au-delà des 10 km, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de sortir. Mais faire vos courses au-delà de 10 km, la réponse est non.
Ok, non, c'est interdit. Oui. Sauf qu'en fait...
Vérification faite, eh bien, on peut aller faire ses courses avec attestation 30 km autour de son département. Donc,
eh bien, très bien.
Ah, très bien. Oui, même les ministres n'y comprennent rien. Autre exemple, eh bien, la porte-parole de l'intérieur qui explique sur BFM...
Ce qui est recommandé, c'est cette limite des 6 personnes. 6 en extérieur et comme 6 en intérieur, par exemple.
Ok, 6 en extérieur et 6 en intérieur. La règle des 6, c'est possible. Et Gabriel Attal, le lendemain...
Vous ne pouvez pas inviter chez vous des personnes avec des 6 et caduque.
Oui, je vous le dis.
Ah bah ouais, en fait, on peut pas. Et 2 heures plus tard, réaction du ministère...
Il n'y a pas de base légale pour interdire aux gens, effectivement, de recevoir des gens chez eux, que ce soit pour le déjeuner, pour le goûter, pour le thé, pour le café.
Ah ouais, en fait, on peut, mais alors pas pour le dîner, quoi. Vous l'avez compris, chers amis, les 4 semaines qui viennent s'annoncent très 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 longues.
C'était gratiné, merci beaucoup. La météo, Louis Baudin, quelques mots?
Ah oui, c'est simple, avec le retour d'un temps sec aujourd'hui sur toutes les régions, quelques nuages encore ce matin, de belles éclaircies cet après-midi quasiment partout, un peu plus de nuages au nord de la Seine et dans le nord-est, mais donc sans précipitation, un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lion, puis côté température, c'est toujours pas ça, je les fréquente en ce moment du centre au nord et au nord-est, et cet après-midi, 7 à 11 degrés dans la moitié nord, il en manque 11 à 16 degrés dans la moitié sud.
Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui écoutez RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les curieuses méthodes d'IKEA devant la justice.
En France, le groupe est accusé d'avoir espionné ses salariés et même des clients. Bas les masques à Marseille après le carnaval illégal. Les autorités promettent des suites judiciaires. Et puis nous verrons comment la France peut rattraper son retard sur la 5G.
RTL Matin.
IKEA, tout un état d'esprit qui finit au tribunal. La filiale française du géant suédois est accusée d'avoir surveillé d'un peu trop près ses salariés. Des centaines de personnes auraient ainsi été espionnées. L'affaire avait été révélée il y a 9 ans. Le procès s'ouvre dans 2 heures devant le tribunal correctionnel de Versailles, Anne Le Naff.
Oui, ils sont 15 mis en examen, des responsables d'IKEA et des policiers jugés pour avoir mis en place ce système d'espionnage des salariés, voire de certains clients, dans plusieurs magasins, notamment grâce à des informations récupérées dans les fichiers de la police. Anne-Solène Bouvier défend une 30aine de parties civiles.
C'est illégal, bien évidemment. L'employeur a le droit de surveiller l'activité de ses salariés, mais il n'a en aucun cas le droit de s'approprier des éléments relevant de sa vie privée. Il voulait avoir des renseignements extrêmement vastes, pouvant aller donc du passé judiciaire des salariés à leurs revenus pour faire pression sur eux.
Adèle Amara est l'un des plaignants, leader syndical de Force ouvrière dans le magasin de Franconville. Il a découvert qu'IKEA avait un dossier de 55 pages sur lui.
Ils ont vraiment monté une enquête sur moi et mon entourage. J'en ai pleuré, j'ai eu peur, je me suis dit jusqu'à où il peut aller, jusqu'à où il a été. Comment des gens peuvent faire ça sur des autres gens, quoi? Ils ont gâché des vies.
Les responsables d'IKEA risquent jusqu'à 10 ans de prison et de lourdes amendes. L'entreprise, elle, pourrait écoper d'une amende de 3 750 000 euros.
Anne Le Naff, autre procès à suivre à partir d'aujourd'hui, celui du saccage de l'Arc de Triomphe en plein mouvement des Gilets jaunes. Le 1er décembre 2018, des manifestants avaient forcé l'entrée du monument historique faisant 1 million d'euros de dégâts. 10 personnes sont poursuivies, mais les organisateurs n'ont jamais pu être identifiés.
Il est 8h02, un carnaval en pleine pandémie, c'était à Marseille hier.
Et les masques étaient des masques de déguisement. Seulement, au diable les gestes barrières. 6500 personnes ont défilé au soleil, revendiquant leur droit à la fête. Une dizaine d'interpellations seulement en fin de journée, mais l'affaire n'en restera pas là. D'après la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui promet des poursuites, les fauteurs seront identifiés, affirme Frédéric Camilleri au micro de nos confrères de la Provence.
La difficulté était de pouvoir disperser la foule en sécurité pour la foule, aussi bien que pour les policiers. Et donc, ces conditions de sécurité, elles ont été réunies vers 18h, au moment où je décide d'évacuer cette foule. Au préalable, je pense que chacun de ces participants savait très bien quelles sont les mesures sanitaires à respecter. Ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi de s'affranchir des règles sanitaires, au mépris de toutes les recommandations, au mépris du travail qui est effectué par les soignants dans notre pays pour sauver des vies. Ils ont choisi ensuite de s'attaquer à un manège pour enfants, à brûler des poubelles. Ce n'est pas mon idée du carnaval.
La préfète de police des Bouches-du-Rhône, le virus lui poursuit sa course. Plus de 4400 personnes sont désormais en réanimation en France. C'est le chiffre le plus élevé depuis fin novembre. L'Europe s'engage à accélérer la campagne de vaccination. Pour le commissaire européen Thierry Breton, l'immunité collective sera atteinte le 14 juillet prochain. Pour l'heure, en France, un peu plus de 6 millions de personnes ont reçu une première dose. Alors comment font nos voisins ? RTL vous propose une série de de reportages toute la semaine. On va commencer par la Grande-Bretagne, l'un des pays les plus touchés par le virus. Mais Londres a su mettre le paquet sur le vaccin. Un adulte sur deux est désormais protégé. Sur place, Marie Billon.
Depuis le début février, Hamish, le pharmacien, passe son temps à l'église. C'est parce que c'est ici, dans la salle paroissiale, qu'il a installé un centre de vaccination, son officine étant trop petite.
Ce qu'il faut, c'est être inventif. Tous les différents lieux de rassemblement pour la communauté locale ont été étudiés. Pour qu'un programme de cette ampleur fonctionne, il faut que tout le monde s'y mette. Les autorités de santé ont formé des hôtesses de l'air, des livreurs à la vaccination. Je crois qu'on a même quelqu'un qui travaille dans le marketing et un autre dans la finance à la City.
Alors, si les efforts d'Amish ont connu des aléas, c'est à cause de l'approvisionnement, dit-il.
Nous avons la capacité de vacciner 2500 personnes par semaine, mais nous ne pouvons en faire que 1400. En avril, nous n'avons pas le droit de donner des premières doses, uniquement des deuxièmes doses, à cause des problèmes d'approvisionnement.
Ce sont les personnes de plus de 50 ans et tous les travailleurs de la santé qui sont vaccinés en ce moment. Les autres tranches d'âge devront peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu. Boris Johnson, le Premier ministre, a expliqué le souci lors d'une conférence de presse.
Nous allons recevoir moins de doses qu'espérées. C'est en raison d'une livraison retardée provenant de l'Institut Sérum en Inde. Et parce qu'un lot actuellement sur le territoire britannique doit être testé à nouveau.
Mais le gouvernement assure que le calendrier général n'est pas remis en cause. Tous les adultes devraient avoir reçu une première dose d'ici à la fin juillet.
Marie Billon à Londres pour RTL. Y aura-t-il des soldes au mois de mai ? Bruno Le Maire sur RTL envisage d'autoriser les magasins de vêtements à liquider leur stock au printemps. Le ministre de l'économie qui a par ailleurs confirmé que le gouvernement était ouvert à l'idée de corriger encore des restrictions visant certains commerces. Il a succombé au coronavirus dans l'avion médicalisé qui le transportait vers Paris. Guy Brice Parfait Kolelas, le principal rival de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle au Congo-Brazzaville, avait été évacué hier après avoir appelé dans une vidéo ses supporters à se mobiliser. Écoutez, c'était vendredi, il apparaissait très affaibli avec un masque respiratoire.
Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour lui. Battez-vous.
Battez-vous, voilà ce que disait donc Guy Brice Parfait Kolelas, qui est donc mort ce matin. Il avait 61 ans.
Dans un instant sur RTL, la France et la 5G après le retard à l'allumage. Où en est-on ? On fait le point dans un tout petit instant.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Si vous êtes à Paris, vous l'avez peut-être remarqué depuis ce week-end, le débit de votre téléphone portable est plus rapide.
Oui, c'est grâce à la 5G, 5e génération. Le réseau est activé dans la capitale depuis vendredi. Paris à la traîne d'ailleurs, on fait le point avec la brigade RTL. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Où en est-on du déploiement de la 5G partout en France ?
Alors je vais peut-être vous étonner, mais actuellement, plusieurs milliers de communes sont couvertes, parfois partiellement. Free, à lui seul, en revendique 7000, 1200 pour Bouygues, 300 pour SFR et 235 entre guillemets seulement pour Orange. Mais on ne parle pas partout de la même 5G.
C'est-à-dire ?
Alors c'est-à-dire qu'il y a la vraie 5G qui offre un débit trois fois supérieur à celui de la 4G. Et là, c'est Orange le champion, puisque les trois quarts de ces antennes permettent cette rapidité. Majoritairement, SFR et Bouygues utilisent une autre fréquence pour leur 5G qui est un peu moins performante. Et puis il y a Free qui lui propose une 5G qui ressemble à de la 4G à peine améliorée.
Alors, vous parlez d'un débit pour la 5G la plus performante, trois fois supérieur à celui de la 4G. On ne nous avait pas promis 10 fois plus rapide ?
Si, mais pour ça, il faut attendre encore 2 ou 3 ans avec les nouvelles fréquences qui permettront d'avoir des débits très rapides proches de la fibre.
Est-ce qu'il y a encore des villes qui résistent à la 5G ?
Oui, la plus emblématique, c'est Lille. La ville attend la publication du rapport de l'ANSES sur les dangers des ondes 5G. En revanche, à Nantes, Tours, les discussions sont bien avancées. Les opérateurs font de la pédagogie, comme ça a été le cas à Paris et dans d'autres grandes villes, comme Lyon, Marseille, Grenoble, Bordeaux ou Strasbourg, qui ont maintenant la 5G.
Et quand la France sera-t-elle totalement couverte ?
Eh bien, en 2030, il y aura plusieurs étapes. D'ici là, par exemple, en 2025, les deux tiers de la population devraient avoir accès à la 5G.
La brigade RTL signée Sophie Jousselin. Merci Sophie. Au Japon, les deux Américains accusés d'avoir aidé Carlos Ghosn dans sa fuite vers le Liban ont été inculpés ce matin. Il s'agit d'un ancien militaire et de son fils. Ils avaient été extradés début mars par les États-Unis. Cette info pratique, si vous prenez les transports à Lille, aucun bus du réseau Ilévia ne circule. Les chauffeurs sont en grève après l'agression d'un de leurs collègues samedi. En revanche, le métro et le tramway fonctionnent normalement. C'est ce que nous signale Franck Hanson sur place.
8h10, le football avec un Paris Saint-Germain qui reprend la tête de la Ligue 1.
Les Parisiens ont battu Lyon 4-0. buts à deux. Il profite de l'échec de Lille, battu 2-1 par Nîmes. Le LOSC redescend sur la deuxième marche devant Lyon et Monaco. Les autres résultats de la soirée, la victoire de Lens à Strasbourg, 2-1. 3-1 pour Montpellier face à Bordeaux. Match nul, 0 partout entre Brest et Angers. 1-0 pour Reims à Dijon. Nantes, Lorient, 1 partout.
Ah ben, il manquait plus que ça. En Vendée, rué sur la pizza au cannabis.
Oui, au cannabidiol, plus précisément. C'est la version légale de la plante qui fait rire. Dans le petit village de Beaurepaire, ce couple de vendeurs a su trouver le petit truc en plus pour relancer ses commandes après 18h. Reportage de Patrice Gabart.
Léo Pizza, bonjour. C'est noté, 7 saumons. 7 saumons CBD. A tout à l'heure, merci.
Le cannabidiol pour 3 euros de plus sur chaque pizza fait un carton chez Michael et Stéphanie Massard, gérant du bar tabac PMU des sports à Beaurepaire.
Ça n'arrête pas d'appeler. On tournait à une vingtaine, une trentaine de pizzas. Et là, on est en train de tripler le chiffre. Le CBD est venu après le confinement des 18h. Il faut faire quelque chose parce qu'on ne travaillait plus à 18h.
C'est le fournisseur de tabac basé à Rennes qui leur a donné l'idée.
C'est comme du persil que j'émiette. Et je le mets dès que la pizza est cuite. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas mal les anciens, quoi. Contrairement à ce qu'on peut dire les jeunes, non. C'est les anciens qui recherchent.
D'ailleurs, ce jour-là, Roselyne, une fringante quinquagénaire, a fait plus de 40 km aller-retour pour une margarita au CBD.
Pour une fois qu'on peut faire quelque chose de légalement et pas être caché. J'ai commandé pour tester. Vu les commentaires, ça détend. On va déguster ça ce soir avec mon mari et puis on verra l'effet secondaire. Et pas mal la vie.
Et les derniers chiffres parlent d'eux-mêmes. En deux jours, vendredi et samedi, Michael et Stéphanie ont vendu 355 pizzas, dont 317 au cannabis.
Ça marche très fort, la pizza qui détend. Patrice Gabart.
L'histoire du jour peut-être.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans l'Est, quatre jeunes qui voulaient rentrer chez eux à Strasbourg ont tenté de faire le trajet dans une locomotive. Ils ont essayé de faire démarrer la machine en vain avant de se décider à prendre le TER comme tout le monde. Finalement, bien plus simple. Trois d'entre eux ont été interpellés. Le quatrième est toujours recherché. Il risque de se faire botter l'arrière-train.
Mais écoutez, tant mieux, ça veut dire qu'on a encore besoin de conducteurs pour nos locomotives. Merci beaucoup Jérôme Florin. Dans un instant, on va retrouver Michel Simès. Il va nous parler bouche sèche. Bouche sèche.
RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous avez quelques conseils à donner à celles et ceux qui se plaignent d'avoir la bouche sèche.
Oui, on appelle ça la xérostomie. Oui. Comme vous avez fait grec première langue, oui. Yves, je ne vous apprends rien en vous disant que, voilà, que xéro signifie sec. Et stomat veut dire bouche. Donc comme ça, on sait de quoi on parle.
Voyons ce que sont les facteurs qui favorisent la sécheresse buccale.
Alors en tête des coupables, la cigarette avec elle, c'est facile. On la retrouve dans tous les mauvais coups. Et la sécheresse buccale n'est pas le pire de ses effets délétères, mais ça reste un fait. Hein. Il est clair que quand vous fumez, votre muqueuse buccale souffre et qu'elle est moins humidifiée. D'où cette sensation épouvantable de se trimballer un sac de plâtre dans la bouche, surtout au réveil.
Bon, néanmoins, la sécheresse buccale touche aussi les non-fumeurs.
Affirmatif. Et dans ce cas, les causes sont peut-être à chercher du côté d'un manque d'hydratation ou tout simplement de l'âge. Hein, plus vous vieillissez, moins vous produisez de salive. Ça, ça relève du béaba. Mais il y a des causes, comment dire, plus sournoises.
Bon, allez, dites-nous jusqu'où se niche cette sournoiserie.
Alors parfois, cette bouche sèche trouve son explication dans le traitement dont vous faites l'objet. Si vous prenez des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antihistaminiques, des antihypertenseurs, je m'arrête là hein, parce que cette liste n'est pas exhaustive, il peut s'agir d'un effet secondaire. Même chose si vous suivez une radiothérapie.
Une bouche sèche peut-elle être révélatrice d'un problème de santé sous-jacent?
Oui, quand les choses durent, cela peut trahir un diabète, une maladie rénale ou le syndrome de Gougerot-Jeugren.
Ah bon, de quoi s'agit-il?
Alors ça, c'est une maladie auto-immune, hein, c'est-à-dire c'est chronique, hein, révélatrice d'une anomalie du système immunitaire qui touche notamment les glandes lacrymales et salivaires. Oui. Mais dans ce cas, vous n'avez pas seulement la bouche sèche, vous souffrez aussi de sécheresse oculaire. On estime que ce syndrome concerne entre 50 et 200 000 personnes en France, en grande majorité des femmes. Il faut, pour en faire le diagnostic, consulter, en passer par certains tests, voire un examen de sang.
Bon, in fine, que peut-on faire pour lutter contre la bouche sèche?
Alors, la base de la base, c'est l'hydratation. Bien des choses se résolvent quand on boit suffisamment. Le tarif, vous le connaissez, c'est environ 1,5 litre par jour, en étalant bien sa consommation sur toute la journée. Mmh. Alors après, il y a quelques trucs.
Ah oui.
Vous pouvez sucer un bonbon sans sucre de temps à autre, hein, pas tout le temps, parce que ça active la production de salive. Vous pouvez aussi mâcher des feuilles de menthe en veillant à ce que de petits bouts ne restent pas collés à vos dents. Considération purement esthétique, mais tenez, ça me fait penser à quelque chose, ça concerne vos dents justement.
Ah bah nous sommes toutes oui.
Si vous avez la bouche sèche, allez faire un tour chez le dentiste, parce que la salive protège vos dents des bactéries. Et si vous en manquez, de la salive, hein, pas des bactéries, ça facilite l'apparition de caries, preuve supplémentaire que dans notre fascinant organisme, tout est lié.
Magnifique.
À demain, Michel.
À demain.
Dans un instant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sera avec nous pour répondre à toutes vos questions au téléphone et par SMS, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Vous avez le droit de lui poser des questions très précises. Il est avec vous dans un tout petit instant.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Il est 8h20. Merci Bruno Le Maire d'être resté avec nous pour répondre aux questions des auditeurs d'RTL. Elles sont nombreuses, donc on ne va pas perdre de temps et donner tout de suite la parole à Agnès qui nous appelle de Dunkerque. Elle est gérante d'un institut de bien-être. Pouvez-vous préciser exactement la nature de votre travail, Agnès ?
Oui, bien sûr. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le
bonjour,
ministre.
Bonjour, bienvenue.
Alors aujourd'hui, j'ai un centre bien-être minceur, c'est-à-dire un centre de rééquilibrage alimentaire et de soins corporels. J'ai 6 cabines à disposition, voilà, qui sont individuelles. Et je vous ai écouté parler, monsieur le ministre, tout à l'heure, et j'ai cru comprendre que votre porte restait ouverte. Est-ce que vous pouvez me dire si dans les jours à venir, je le souhaite, je pourrais peut-être réouvrir mon centre ?
Est-ce que l'arbitrage peut encore évoluer,
Agnès?
Comment?
Je vais vous dire très simplement, je ne vais pas prendre d'engagement formel ce matin, ce ne serait pas responsable. En revanche, quand je dis que ma porte est ouverte, c'est qu'on va regarder toutes les situations qui font aujourd'hui débat et regarder s'il y a des possibilités de faire évoluer les choses pour garantir la cohérence des décisions que nous avons prises. Je pense que nous le devons aux Français. Et ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances, c'est pas de dire voilà, circuler, il n'y a rien à voir, c'est d'entendre lorsqu'il y a des critiques, voir celles qui sont légitimes, qui sont fondées, parce que c'est des activités qui seraient tout à fait semblables à celles qui sont restées ouvertes. Puis après, je ferai des propositions au Premier ministre qui arbitrera et qui prendra les décisions. C'est comme ça que nous allons faire cette semaine. Je vais être très clair avec vous. On va recevoir aujourd'hui les organisations patronales et les représentants aussi des commerçants. Alain Griset recevra l'UDP très prochainement. Nous avons déjà toutes les professions qui se sont manifestées. Nous savons lesquelles se sont manifestées. On va instruire tout cela et soumettre des propositions au Premier ministre.
Mais approximativement, pardonnez-moi, dans quel délai, Bruno Le Maire?
Le plus vite et le mieux. Il est évident qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser les personnes dans l'incertitude. Si c'est non, il vaut mieux le dire tout de suite et le dire très clairement. Si c'est oui, qu'il y ait une ouverture, le dire aussi le plus vite possible.
D'ici la fin de la semaine, il pourrait avoir une réponse.
Voilà, des évolutions.
Oui, les réponses, elles viendront vite. Je ne veux pas créer d'illusions en disant on va tout modifier radicalement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que nous ferons. Mais s'il y a une chose ou l'autre à corriger ici ou là, parce qu'il y a vraiment un défaut de cohérence, comme à chaque fois, nous le ferons.
Merci Agnès de nous avoir appelé. Nous donnons la parole maintenant à Cécile, qui est maître d'hôtel et qui vous appelle de Paris. Bonjour Cécile, Bruno Le Maire vous écoute.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le Ministre. Voilà, je suis maître d'hôtel dans l'événementiel pour les traiteurs, une organisation qui s'appelle OPRE, le personnel de la restauration dans l'événementiel. On vous alerte depuis un an. On n'a strictement eu aucun dispositif nous concernant, à part une prime de 900 € à laquelle nous, personnellement, on n'y a absolument pas droit parce qu'on a tous nos droits au chômage qui sont un petit peu au-dessous de ces 900 €. Par ailleurs, cette prime de 900 €, il faut avoir travaillé 138 jours en 2019 pour y avoir droit. Donc, par exemple, une personne qui travaille 2 heures par jour pendant 139 jours y a droit, mais quelqu'un qui a fait 1300 heures pendant 138 jours n'y aurait pas droit. Par ailleurs, une autre mesure que vous avez faite, c'est pour ouvrir des droits, c'est réduit à 4 mois. Des droits au chômage, c'est réduit à 4 mois. Seulement, nous, on est vraiment à l'arrêt. On ne peut même pas travailler un jour. Donc, on n'a eu strictement rien. Pas de fonds de solidarité, pas de chômage partiel. Je voulais savoir ce qu'il était prévu éventuellement pour nous.
Voilà, les maîtres d'hôtel dans l'événementiel.
Alors, il y a toute une partie, Cécile, à laquelle je ne pourrais pas répondre, parce que ça relève du ministre du Travail. C'est sur les droits au chômage, les 4 mois que vous avez indiqués, mais je vais évidemment lui transmettre vos remarques, on va les étudier avec attention. Sur l'événementiel, en revanche, moi, je vous confirme que nous avons prévu des dispositifs spécifiques pour ce secteur qui est très touché, parce que non seulement aujourd'hui il ne peut pas fonctionner, mais en plus il ne peut pas se projeter. Parce que, évidemment, organiser un mariage, un baptême, une cérémonie, une activité avec des entreprises qui justifieraient d'avoir recours à un traiteur, personne ne se projette à 2 mois ou 3 mois aujourd'hui. Dans ce secteur-là, il est très durement touché. Donc nous avons notamment mis en place le dispositif de prise en charge des coûts fixes pour le secteur colonel-événementiel. Nous prenons en charge, je le rappelle aussi, le chômage partiel pour les salariés de l'événementiel. Le dispositif sur les coûts fixes, il sera disponible au 31 mars. C'est vrai qu'il a été long à mettre en place, mais il va prévoir une indemnisation qui va être très forte et très large. Donc les aides viennent. Certaines, vous y avez déjà eu droit, je pense notamment au chômage partiel ou aux exonérations de charges. Et sur la question que vous soulevez très particulière des maîtres d'hôtel, du nombre d'heures travaillées, je vais évidemment soumettre ça à Elisabeth Borne, la ministre du Travail, pour voir s'il y a des choses à corriger ou à améliorer.
Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelé. C'est Jean-Michel qui, lui, nous téléphone de Strasbourg, qui va vous interroger maintenant, monsieur le ministre. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour monsieur Calvi, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Je suis commerçant dans une galerie de plus de 20 000 m² et donc fermée. Le 1er février, sur ce même plateau, avec Albin Ventura, vous affirmiez, je vous cite, que les loyers seront pris en charge, et j'en ai pris l'engagement samedi, j'en ai discuté avec tous les représentants des centres commerciaux. Aujourd'hui, j'interroge mon comptable et mon bailleur, qui ne sont au courant de rien. Qu'en est-il, s'il vous plaît ?
Une question bien précise.
Oui, mais la réponse va être extrêmement précise. J'ai pris un engagement, et mes engagements, je les tiens. Donc, les loyers des grandes surfaces et des centres commerciaux d'une surface supérieure à 20 000 m² pour toute la France, ou de plus de 10 000 m² pour les zones où les règles sanitaires ont été renforcées, seront pris en charge à partir du 31 mars. C'est le dispositif charge fixe sur lequel vous pouvez vous inscrire dès le 31 mars. Hein, c'est la date d'ouverture sur le site de la Direction générale des finances publiques, le site du ministère de l'Économie et des Finances. Et il y aura des indemnisations qui vont permettre de couvrir justement ces loyers des commerces qui sont dans les centres commerciaux et dans les galeries marchandes. Je précise même qu'on est allé dans un degré de détail plus loin. Si vous avez des commerces qui appartiennent à une chaîne et dont certains sont ouverts et d'autres sont fermés parce qu'ils appartiennent à une galerie commerciale, ceux qui sont dans la galerie commerciale et qui sont fermés auront droit à la prise en charge de leur loyer.
Bruno Le Maire, vous dites à Jean-Michel qui nous appelle, nous sommes le lundi 22 mars, que donc sous 10 jours, il aura une réponse et a priori, le montant de ses loyers qui lui sera versé, je crois que les choses soient bien précises.
On peut reconnaître que depuis le 1er mars 2020, depuis que cette crise dure, à chaque fois que j'ai pris un engagement vis-à-vis des commerçants, des PME, des entreprises, des très grandes entreprises, entreprises publiques ou des entreprises privées, je les ai tous tenus, sans exception. Donc si je dis que les loyers des commerces qui sont fermés dans les grands centres commerciaux, les galeries commerciales seront pris en charge, c'est qu'ils seront pris en charge. Je reconnais que, comme les dispositifs se multiplient, oui, les délais peuvent être un peu plus longs. Ça, je le reconnais bien volontiers. On a recruté de nouvelles personnes à la Direction générale des finances publiques pour accélérer les délais, mais les promesses seront tenues.
Jean-Michel, vous nous tenez au courant puisque visiblement vous êtes un auditeur fidèle. Et maintenant, nous allons donner la parole à Christophe qui est entrepreneur qui vous appelle de Nantes, monsieur le ministre. Bonjour Christophe.
Bonjour monsieur Calvi, bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Monsieur le ministre, je suis un entrepreneur de 59 ans qui a entrepris en 2020. Je n'ai pas d'antériorité, je ne rentre dans aucun dispositif, je n'ai le droit à rien. Comment fait-on ?
Alors, est-ce que vous pouvez me préciser votre situation, Christophe ?
Alors,
est-ce que vous avez créé votre entreprise en 2020 ou est-ce que vous avez repris une entreprise en 2020 ?
Non, j'ai créé deux sociétés en 2020 dans la restauration rapide. Depuis décembre, vous avez, entre guillemets, entravé mon activité, ma liberté d'entreprendre. J'aurais dû ouvrir en décembre, donc je constate aujourd'hui une perte au chiffre d'affaires de plus de 500 000 euros. À titre personnel, je n'ai le droit à rien. Je ne me rémunère pas. Comment fait-on pour vivre ? Comment fait-on pour avancer ? Comment fait-on en France pour entreprendre ?
Est-ce que je peux vous demander quand est-ce que vous avez créé votre entreprise, Christophe ?
En mars 2020.
Alors, il y a deux cas de figure différents. Il y a le vôtre, c'est-à-dire vous avez créé l'entreprise. Donc, vous avez créé deux restaurants. C'est bien ça, de la restauration rapide.
Exact.
Et vous n'avez fait aucun chiffre d'affaires depuis. Donc, ce n'est pas une perte de chiffre d'affaires. Vous n'avez pas créé de chiffre d'affaires.
Bah, c'est un manque à gagner. Quand vous créez une société, vous créez une société. Votre société repose sur un prévisionnel. C'est un outil de gestion.
Non, je comprends bien.
Ça vous permet d'investir, de recruter, de faire des travaux.
Alors, je comprends parfaitement. C'était juste pour bien comprendre la situation dans laquelle vous étiez. Vous avez droit, normalement, à des dispositifs qui ne sont pas de l'indemnisation de chiffre d'affaires, parce qu'on n'a pas de chiffre d'affaires de référence, mais vous avez droit à un soutien financier de la part des pouvoirs publics. Donc je vais vérifier cela tout de suite, mais vous avez droit à un soutien financier de la part de la puissance publique, y compris si vous avez créé votre entreprise. Après, je profite de votre question pour dire qu'on a eu énormément de questions de personnes qui sont, Christophe, dans une situation semblable à la vôtre, qui ont repris, par exemple, un restaurant ou un hôtel en septembre-octobre. Ils pensaient que ça allait rouvrir, oui. Donc ils ont accumulé des charges fixes. Mais non seulement ça n'a pas rouvert, mais il y a eu le confinement et aucun de ces établissements n'est ouvert depuis. Donc ils payent chaque mois 2000 euros ou 3000 euros de loyer, ils payent les charges fixes et ils n'ont absolument aucune compensation. Nous avons prévu de prendre en charge les coûts fixes pour ces reprises d'établissements de façon à ce que ces entrepreneurs qui, comme le dit Christophe, ont eu le courage d'entreprendre, ont eu cette audace-là et ont fait le pari que ça allait marcher mieux, ne soient pas pénalisés. Donc ce dispositif sur la prise en charge des coûts fixes, des reprises d'entreprise, sera disponible dans les prochaines semaines, on est en train de le finaliser. Je pense qu'il pourra commencer à fonctionner de manière rétroactive à partir de janvier 2021, c'est-à-dire qu'on prendra en compte les pertes à partir de janvier 2021, de façon à ce que les entrepreneurs, une fois encore, qui ont eu le courage d'entreprendre, qui ont fait une reprise, qui ont parié sur la réouverture et qui sont toujours confrontés à la fermeture de leur établissement, puissent être compensés financièrement.
Nous allons suivre aussi le dossier de Christophe. Et maintenant, c'est Guillaume qui vous interroge, monsieur le ministre. Bonjour Guillaume.
Bonjour Yves, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Donc moi, j'ai une galerie d'art contemporain qui est à Paris, dans le 8e arrondissement. Alors, nous sommes fermés à nouveau pendant 4 semaines après avoir été fermés 3 mois en 2020. Donc c'est très dur parce que les mois de mars et avril sont des mois qui sont en général bons pour nous. Alors nous ne sommes bien sûr pas des lieux de contamination puisque nous avons entre 0 et 10 visiteurs par jour à la galerie. Je me suis aperçu à quel point nos galeries étaient des lieux essentiels pour des gens à Paris qui habitent seuls, par exemple, et qui sont venus nous voir à l'occasion de la fermeture des musées. Et donc, ma simple question est celle-ci, monsieur le ministre. Allons-nous être autorisés à recevoir nos clients ou nos visiteurs sur rendez-vous avec une attestation à défaut d'être des commerces essentiels ?
Bruno Le Maire.
D'abord, je redis que je ne crois pas à cette distinction commerce essentiel ou non essentiel. Pour moi, tous les commerces sont essentiels. De la vente de chaussures à la galerie en passant par le boulanger, c'est tout simplement la vie, le commerce. Et tout dans la vie est essentiel. Donc je refuse cette distinction. Et je vous dis, Guillaume, que les galeries d'art sont pour moi, comme pour des millions de Français, effectivement, un lieu d'évasion, un lieu de liberté, un lieu d'ouverture dans une période qui est difficile pour tout le monde. On a cité les salons d'esthétique. Les galeries d'art, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels il peut y avoir une interrogation. J'ai déjà été saisi par plusieurs galeristes dès ce week-end qui m'ont fait observer, mais attendez, les hôtels de vente sont ouverts et pas les galeries. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc ça fait partie des dossiers que je vais instruire comme je m'y suis engagé dès aujourd'hui pour faire des propositions ensuite au Premier ministre.
Ce qu'on peut constater, c'est que les jauges, monsieur le ministre, ne fonctionnent pas toujours. Et peut-être qu'il y en a certains qui ne respectent pas les jauges, 2-3 personnes dans une boutique, et qui finalement pénalisent une grande partie.
Le contrôle des jauges, il est strict, il continuera à être strict. Vous
avez parfaitement raison, Alba Ventura.
On le fait en tout cas dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces ont beaucoup progressé dans le contrôle des jauges et je les en remercie. Parce qu'effectivement, si tout le monde ne respecte pas les règles qui sont des règles communes, ça incite effectivement à avoir des comportements qui finalement pénalisent tout le monde. Donc les jauges, elles sont utiles, permettent de garantir qu'on ne s'amasse pas dans un lieu qui est fermé, elles doivent être respectées.
Nous retenons en tout cas de vos interventions et de ce dialogue avec les auditeurs d'RTL que des évolutions peuvent avoir lieu et qu'elles font l'objet de discussions dans les jours à venir. Nous sommes bien
d'accord,
monsieur le ministre.
On est bien d'accord.
Merci infiniment d'avoir pris la parole ce matin sur RTL, Bruno Le Maire. Dans un instant, nous allons faire un point sur notre météo avec Louis Baudin, météo à 7 jours. Bonne journée à vous.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Monique Younes. Je vous emmène ce matin pour une visite exceptionnelle dans le coffre-fort du Louvre, à Liévin, découvrir les trésors cachés du plus grand musée du monde. A tout à l'heure, 9h, dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
8h37, notre météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin. Et puis, finalement, ça démarre pas trop mal,
Semaine. Cette semaine, ça démarre pas trop mal, c'est vrai. Là, je regarde les images satellites, là, avec le jour qui se lève. Ben finalement, le soleil est en train de gagner du terrain dans l'ouest. Il finira par l'emporter cet après-midi quasiment partout. Plus de précipitations. Bon, côté température, c'est encore un peu frais, même cet après-midi, avec des températures 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison. Demain, l'anticyclone sera là encore. Donc, du temps sec, du soleil. Peut-être quelques bons brouillards le matin, mais plus de soleil qu'aujourd'hui, y compris dans le nord et le nord-est cette fois-ci. Encore un peu de vent près de la Méditerranée, toujours de la fraîcheur. Il y aura des gelées demain matin. Et puis l'après-midi, allez, on gagnera peut-être 1 ou 2 degrés. Mercredi, c'est encore mieux. Il faut tout miser sur mercredi.
On mise tout sur
là,
mercredi.
On aura du temps sec, ensoleillé, encore froid le matin, mais avec des températures en fin de saison l'après-midi. On devrait frôler les 15 degrés dans la moitié nord, ce qui en ce moment est pas mal. j'ai pas plus. Et 17-18 degrés dans le sud. Pourquoi mercredi? Il faut en profiter parce que jeudi déjà, retour de quelques nuages dans la moitié nord, peu de précipitations. Vendredi, vraie dégradation avec des nuages, de la pluie, de nouveau un petit peu de neige en montagne. Baisse des températures, ce qu'on retrouvera dans la journée de samedi où ça sera frais avec encore des nuages. Mais dimanche, de nouveau, on pourrait bien avoir un temps sec très ensoleillé et de plus en plus doux. Et ça pourrait nous accompagner en début de semaine prochaine.
Bon, en tout cas, pour nos attestations, on mise tout sur mercredi. J'ai bien compris. Merci beaucoup, Louis Baudin. Enfin, pour les attestations, je vous laisse vous débrouiller. Il est 8h38. Excellente journée à l'écoute d'RTL. Nous allons partir dans quelques instants à Lille avec Franck Hanson.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça à la rencontre ce matin d'une soignante hors norme, Anne-Sophie Santis, est kinésithérapeute à l'hôpital pédiatrique Jeanne de Flandre à Lille et elle est non-voyante. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez suivi cette kiné pas tout à fait comme les autres, en plein travail, dans son service d'urgence.
Blouse blanche, toujours un large sourire, même si elle se déplace avec une canne pliante, Anne-Sophie Santis trace dans les couloirs de l'hôpital.
Là on va passer devant le bureau de ma cadre, là à gauche on a un couloir et là on a notre ascenseur.
Petite silhouette blonde, pas vraiment ralentie, malgré sa déficience visuelle.
Je m'appelle Anne-Sophie Santis, j'ai 37 ans, je suis kiné dans le service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Jeanne de Flandre, au CHR de Lille, depuis bientôt 3 ans. Pas une kiné aveugle, une kiné comme les autres.
On fait la kiné comme ça après.
C'est à l'âge de 20 ans qu'Anne-Sophie, née avec une maladie, a totalement perdu la vue, mais par sa force de caractère, soutenue par son entourage familial, elle a intégré le milieu hospitalier. La voilà auprès d'un bébé qui souffre de bronchiolite.
Là, je vais lui faire sa séance de kiné respiratoire. J'ai énormément été hospitalisée, piquée, endormie. Pourtant, j'ai jamais conçu travailler ailleurs. J'ai pas hésité une seconde, tout en ayant à l'esprit que j'allais devoir remonter mes manches.
Son sens de l'orientation force le respect. Toujours hyper concentrée, Anne-Sophie n'est jamais perdue avec les câbles des machines.
Je me dois de toute façon d'être toujours hyper concentrée sur ce que je fais parce que je n'ai pas la vue, il y a un sens manquant et ça j'en suis tout à fait consciente et j'ai toujours considéré que c'était à moi de m'adapter. Je dis toujours on me montre une fois et ça suffit.
Et avec les parents des malades, cette soignante nordiste s'est inspirée la confiance.
Elle est très forte, déjà là, les mains en peau, c'est fort.
Mais toi t'es métamorphosée, ça me fait trop plaisir de te voir comme ça.
Cette maman de deux petits garçons a su se faire accepter dans l'hôpital, ce n'était pas gagné d'avance. Caroline Lecomte est l'une des cadres de santé.
Donc personnellement, l'ensemble du personnel de la réanimation pédiatrique l'aperçoit comme une kiné en or, avec des sens justement bien plus développés et appréciés. Ça n'a pas été facile au début. Hein. Nous, on nous l'annonce entre une kiné qui ne voit pas. Donc on se dit comment elle va faire. On est quand même en réanimation, c'est un service d'urgence. Ça a super bien fonctionné.
Avec juste une petite perception lumineuse, Anne-Sophie est assez autonome. Elle a aussi décidé de reprendre des études à l'université. De quoi en discuter avec la maman de ce jeune myopathe qu'elle soigne régulièrement.
Ça me permettra aussi, j'espère, de pouvoir donner des cours dans les écoles.
Franchement, vous êtes une femme formidable et courageuse. Félicitations.
Bah, vous aussi. Hein. C'est sûr qu'il y a eu des moments hyper compliqués quand j'ai plus vu. Moi, à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter d'être triste et où j'ai dit il faut que j'avance, en fait, des solutions, j'en ai trouvé.
Anne-Sophie Santis se cogne encore parfois dans les couloirs de l'hôpital lillois. Mais la jeune femme a appris à surmonter les obstacles.
Ça passe !
Magnifique portrait ce matin grâce à vous, Franck Hanson. On salue Anne-Sophie Santis, sa bonne humeur, sa bienveillance à Lille. Un reportage à retrouver sur l'application RTL et votre smartphone.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h41 ce matin, Isabelle Choquet. Gros plan sur un joyau de notre patrimoine, la fameuse tapisserie de Bayeux.
Un bijou qui devait être prêté l'année prochaine à nos voisins anglais.
Oui.
C'est leur histoire aussi. Hein. Sauf que la tapisserie est bien plus abîmée qu'on le pensait. Impossible de la faire voyager en l'état. J'ai lu ça dans Le Monde ce week-end. La tapisserie de Bayeux, c'est une espèce de BD médiévale qui raconte le débarquement de Guillaume le Conquérant en Angleterre en 1066. 626 personnages sur presque 70 mètres mètres de long. Elle a été brodée il y a 1000 ans, c'est donc une très vieille dame, aux origines assez mystérieuses, l'abbaye de Canterbury peut-être. En tout cas, on la voit apparaître officiellement au 15e siècle dans un inventaire de la cathédrale de Bayeux. Malgré sa fragilité, Bonaparte l'a fait venir à Paris en 1803 pour l'exposer au Louvre. Avec ça, il espérait convaincre les Parisiens d'envahir l'Angleterre. Bon, finalement, il l'a renvoyée en Normandie. Depuis 1983, elle est exposée dans un bâtiment construit rien que pour elle, mais malgré toutes les précautions qui l'entourent, cette vieille dame a souffert et aujourd'hui, elle craque. Une équipe de 8 restauratrices l'a inspectée. Verdict, 24 204 taches, 16 445 plis et 9 646 manques dans la toile ou dans les broderies. Pire encore, les experts ont relevé 30 déchirures non stabilisées, ça c'est le terme technique. Alors, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est tout simple. La tapisserie est exposée en ce moment à la verticale, cousue sur un dosseret qui permet de la faire glisser sur un rail, mais ce dosseret serait de 350 kg à vieilli et il pèse sur la toile. Le galon qui a été ajouté au bas de l'œuvre au 19e siècle tire aussi sur les fibres, ça les déforme. Et puis au dos, il y a ce qu'on appelle des scrupules, des petits amas de poussière et de saleté qui retiennent l'humidité. En plus, les pièces de ravaudage rajoutées au fil des siècles provoquent des tensions. Bon, vous voyez le tableau.
Oui.
La telle du Conquet, c'est son autre nom, a vraiment besoin d'un coup de jeune. Elle sera donc restaurée à partir de 2024 lorsque le musée fermera pour travaux. Et ensuite, elle sera exposée cette fois sur un plan incliné. Ça permettra de se passer du dosseret. On parle de restauration, mais il y a des limites. La toile, d'abord, pas question de la laver, c'est trop dangereux, elle sera tout juste dépoussiérée. Ensuite, les scientifiques sont formels, il ne faut pas tout réparer. Certains trous dans la toile peuvent avoir un intérêt historique. Par exemple, les trous des clous sur lesquels la tapisserie était accrochée dans la cathédrale de Bayeux ou les taches de cire provoquées par l'éclairage à la bougie. Il y a aussi débat sur la façon de restaurer la toile. Faut-il faire ça d'un seul tenant ou peut-on le faire en plusieurs fois en la pliant? D'un seul tenant, ça veut dire qu'il faut construire un dispositif spécifique de 70 mètres de long. Et puis on ne sait pas trop quoi faire avec les raccommodages. Plus de 400 pièces de renfort ont été posées, de nombreuses broderies ont été reprises. Alors une étude a été lancée pour analyser les colorants utilisés dans les fils de laine. Ça permettra de connaître leur origine et peut-être le lieu où a été brodée la tapisserie. Car la France et la Grande-Bretagne se disputent là-dessus depuis des siècles et il faudra sans doute bientôt ajouter une ligne à la longue liste des chicanes entre nos deux pays. Les Britanniques ont déjà réclamé deux fois le prêt de la tapisserie de Bayeux, pardon. Une fois pour le couronnement d'Elisabeth II en 1953 et une autre pour le 900e anniversaire de la bataille d'Hastings en 1966. Et à chaque fois, la France a refusé. Là, on avait dit oui, mais la promesse de prêt ne pourra sans doute pas être tenue. Bref, la bataille ne fait que commencer, ou plutôt, elle continue comme depuis des siècles. Les accros de la tapisserie de Bayeux, c'est un article à lire sur le site du Monde.
Il ne faut surtout pas la leur prêter, nous la rendrons jamais. Voilà mon avis sur la question. Merci.
Vous avez
beaucoup
tranché.
Oui, c'était passionnant en tout cas, et merci pour ce voyage auprès de cette tapisserie à Bayeux. Merci infiniment. On se retrouve demain matin.
Avec plaisir, à demain.
Dans un instant, Laurent Gérard.
Le matin. Avec Yves Calvi.
8h47, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous.
Un, deux.
Oui.
4 x 4, 8.
Oui, c'est vrai.
Paris, Bordeaux, la Lune, haut les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain.
Ah, je crois que Jean Castex veut nous parler.
Mes chers compatriotes. En responsabilité, je me suis fait injecter le vaccin Opel Astra Karateka et tout va bien. Depuis lors, je n'ai plus besoin de mes lunettes. J'ai retrouvé la vue, ce qui me fait dire que chez vous, ça sent la grillade. En irresponsabilité, Monsieur Calvi a organisé un barbecue, j'en suis sûr. Ce qui est pourtant, je vous le rappelle, interdit.
Bon, vous êtes sûr que ça va, monsieur le Premier ministre ?
C'est un peu peur, là.
Oui, très bien. Depuis que j'ai décidé de confiner les gens dehors, de les confiner dehors.
Oui, c'est un peu paradoxal, non, de confiner les gens dehors ?
Mais non. Les Franciliens, les gens du Nord qui ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor.
Oui, oui.
Et les mémés à caniche de la Côte d'Azur qui ont les cheveux violets doivent maintenant sortir de chez eux pour aller à la librairie. Mais, car il y a un mais, ils n'ont pas le droit de s'acheter des vêtements. Pour être sûr que cette mesure soit respectée, seuls les naturistes tout nus et munis d'un livre d'Amélie Nothomb pourront circuler librement.
Alors les coiffeurs, eux,
pourront rester ouverts.
Oui, mais dans un protocole sanitaire renforcé. Seuls les chauves et Pascal Pro, qui a un cheveu sur la langue, pourront se rendre chez le coiffeur.
C'est pas très clair, hein. Quelle est votre stratégie exactement?
C'est très simple. En responsabilité, nous allons vacciner en masse dès qu'on aura des vaccins. Vous sortez dehors tout en restant à l'intérieur. Mm-hmm. Et si cela ne suffit pas, nous rouvrirons les magasins IKEA pour que chaque Français puisse monter lui-même son lit de réanimation. De réanimation.
Oui, de réanimation. Voilà. Un variant breton du Covid-19 a été découvert. Il inquiète, car il serait difficile à identifier avec les tests PCR.
C'est génial.
Bonjour Yann Kefelec. Je ne vois pas ce qu'il y a de génial dans cette découverte.
Mais si c'est génial, le variant breton, c'est comme la galette saucisse.
Je ne vois pas le rapport entre le variant breton et la galette saucisse.
C'est pourtant évident, c'est génial. Les types en blouse blanche de Paris, ils n'arrivent pas à identifier notre variant. À nous les bretons. Oui. C'est comme les gonzes en toque blanche de la capitale, dont jamais percé le secret de la recette de la galette saucisse. C'est génial.
C'est surtout très inquiétant.
Au contraire, c'est un soulagement pour nous les bretons. Comme ça, les parigots têtes de veau, ils vont plus venir saloper nos plages. Ça va être génial. Mm-hmm. Et je préviens tout de suite Olivier Véran et Jérôme Salomon, vous n'aurez jamais la recette de notre variant breton. Et encore moins la recette de la galette saucisse.
Ce qui est curieux, c'est que malgré ce variant, la Bretagne est l'une des régions les moins touchées par le Covid.
Mais ça n'a rien d'étonnant, c'est génial. Je ne vous donnerai pas notre recette d'immunité, sinon les parigots de tête de veau vont quitter leurs deux pièces cuisine pour venir se confiner chez nous.
Un indice quand même, s'il
vous d'accord.
Plaît.
Oui. C'est bien parce que vous m'êtes sympathique, oui, vous êtes géniaux. Oui. Notre gel hydroalcoolique, on le fabrique avec du chouchen. Et on le boit. Je peux vous dire qu'on n'a même pas besoin de masque. Quand le virus se pointe, rien qu'en soufflant dessus, on l'extermine. Le dernier coronavirus qui m'a approché, je l'ai balancé du 75 degrés dans la tronche. On l'a plus revu. Décidément, la Bretagne, c'est génial.
Énième rebondissement judiciaire pour Nicolas Sarkozy dans le procès Big Malion a été reporté à cause d'un cas de Covid pour l'un des avocats. Découvrons comment l'ancien président vit ce nouvel épisode auprès de son épouse et de sa fille Julia.
Oh mon président, tu n'es pas encore habillé. Tu n'as pas tribunal aujourd'hui.
Tu veux savoir pourquoi que je traîne en pyjama, tartine et chocolat? Au lieu d'aller m'expliquer auprès des juges qui m'ont mis au mur des cons, eh ben je vais te le dire, c'est parce que le procès est reporté. Comme quoi, hein, j'aurais jamais dû prendre un abonnement au parking du palais de justice.
Dis papou, j'aimerais bien savoir pourquoi le procès il est reporté. Est-ce que c'est à cause que, comme quoi que les juges ils sont en grève?
J'aimerais bien ma petite Julia, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il y a toujours une justice qui tombe du ciel. Et que là, c'est l'avocat du méchant qui est tombé malade du Covid.
Oh, que belle! Tu as entendu, ma Juliette? Quand on est méchant, on est puni.
Ah oui, mais je sais, ma mounette. L'autre jour, il y a le petit Enzo, il m'a accusé comme quoi que j'avais triché en donnant des bonbons pour être élu délégué de classe. Et ben, après, il a eu la varicelle. Et quand il est revenu, il avait des croûtes partout. Même que c'était pas beau à voir.
Mais que belle storia. Je vais en faire une nouvelle canzone pour mon prochain album.
Dis, mamoun, puisque papou, il a pas tribunal aujourd'hui, pourquoi qu'on chante pas une chanson tous ensemble?
Mais oui, cantiamo tutti insieme. C'est toi qui commences, Giulietta. Tres, quattro.
On nous dit que papa, il est toujours coupable et que tous les procès, il les a sur le rab.
On me dit que chaque fois que je vais en correctionnel, il y en a un qui est content, bah c'est Edwy Plenel.
Pourtant papa a dit qu'il était innocent.
C'est papa qui a dit qu'il est innocent.
Serait-ce possible alors?
Salut, pas cher.
Bonjour, professeur Raoult. Vous ressemblez de plus en plus à Patrick Sébastien.
Ouais, mais c'est normal. Pas cher honnête, parce que moi, entre deux rasades de chloroquine, c'est ce que j'aime faire.
Non, dites-nous.
La fiesta, ouais. La fiesta, la fiesta.
Qu'est-ce que vous fêtez?
Je reviens pas que tu poses la question, pitulette. C'est pourtant évident. je fête les 1 an du Covid-19 en France. Joyeux anniversaire, collègue.
Je suis pas sûr qu'il y ait de quoi se réjouir.
Putain, parle pour toi. Oui. Parce que moi, ce Covid, ça a été la chance de ma vie. Avant, j'étais comme un vieux prof de sciences nat à Barbichette.
Oui, c'est-à-dire.
J'étais dans mon placard, l'œil collé au microscope, que j'en avais mal à la rétine à chercher de quoi étaient composés les poils de cul de mes souris de labo.
Non, c'est pas possible.
Autant dire que ma vie, elle était pas folichonne. Mais heureusement, le Covid est arrivé, putain.
Ça a changé quoi?
Maintenant, c'est l'œil rivé aux caméras du monde entier que j'ai. Fini le placard à balai, les microscopes, les poils de cul, les souris. Le virus, ça fait de moi une star. Tu verras, à la plage cet été, il y a même des cagoles qui s'en fait tatouer ma tête sur leur derrière. J'en ai même vu que la ficelle du string, elle me coupait la barbe en deux.
Oui, ouais, soyons sérieux, professeur Raoult. C'est pas possible. L'heure est grave.
Ouais.
Il y a les variants, la campagne de vaccination qui ne marche pas très bien. Tout cela est affreux.
Eh ben je dis, tant mieux. En un an, j'ai écrit 2 livres qui sont vendus comme des sardines sur le vieux port. J'ai fait des millions de vues sur YouTube. Et puis Jadas, il me mange dans la main, tu vas me dire. Vu qu'il est nain, ça aide. Alors, je dis qu'avec les nouvelles cagades du virus, c'est sûr, Hollywood va faire un biopic sur moi. Alors je lève mon verre de chloroquine à mon meilleur ami le Covid. Et on fait tourner seringue. Et on est tous comme des dingues. Le Covid, c'est que de l'amour. Et vous avez vu, à Marseille, on peut même faire le carnaval. Sans
la masque. Vie est un carnaval. Et le monde est immense et pâle. Nous tournons inlassablement.
Ça va, qu'on y aurait droit.
Quand tout ça l'aiguisement.
Cadeau.
Vous savez que ça tombe bien parce qu'on a été rejoint par Bérédice Bourgueil, qu'on va retrouver à 11h30 avec Bruno Guillon et qui nous amène des gaufres, si j'ai bien compris, Bérénice, c'est ça. Hein.
Wow.
Ah, formidable.
Ce sont des gaufres de Liège, les meilleurs gaufres.
Oh, c'est génial.
Gaufres au sucre.
Et je me suis
les
dit comme
fameuses gaufres au sucre.
Et ouais, exactement, avec des perles de sucre. Et puis je voulais faire goûter ça à tout le monde, en particulier à Cyril.
Bien raison. Alors, on vous retrouve à 11h30, vous embrassez Bruno et on vous embrasse, c'est formidable.
De loin, bien sûr, vous embrasse.
Évidemment,
merci,
vous l'avez compris.
Oui, mais oui.
Bon, bah, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Oui,
qu'est-ce qu'on mange ce matin?
Ah oui, c'est vrai.
Alors d'abord les gaufres.
D'abord les gaufres.
Parce que ça, c'est fantastique.
Pour faire une petite nappe. Voilà.
Et puis après, ensuite, des cannelés.
Et voilà. Des petits cannelés bordelais. Moi, je trouve ça toujours trop sucré, mais enfin bon. Oui, c'est...
Pour commencer la semaine.
C'est léger comme nous.
Voilà, exactement. Tout en légère.
Et
allez,
bien, à demain.
À demain avec vous et à 11h30 avec Bérénice et Bruno sur RTL.
RTL Matin. Yves Calvi.
Entre deux gaufres, on va parler cannelé. Bonjour, cher Cyril Lignac.
Bonjour.
Les auditeurs peuvent vous écrire comme d'habitude pour vous poser des questions. Et Caroline, qui vit à Damery dans la Marne, 51, nous dit: mes parents m'ont offert pour mon anniversaire des véritables moules à cannelé bordelais en laiton. Mais catastrophe, moi qui les réussissais si bien dans mes moules en silicone. Et bien là, on aurait dit les champignons atomiques complètement creux à l'intérieur. Quelle est la recette inratable et les bons conseils que vous pouvez me donner?
Alors déjà, c'est amusant parce que le moule à cannelé en laiton, c'est ce qui donne les meilleurs cannelés, parce que déjà il y a une concentration de chaleur dans le laiton qui permet la caramélisation et donc d'avoir ces beaux cannelés croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc je vous donne la recette.
Oui, mais ça colle toujours, non?
Non, parce que le fait que ça caramélise, on les laisse un petit peu à la sortie du four et on peut les démouler. Donc c'est toujours mieux.
Il faut attendre que ça aille refroidir.
Exactement. Entre les deux, pas trop chaud, pas trop froid. On fait infuser, donc d'abord c'est le goût du cannelé.
Oui.
On fait infuser une gousse de vanille dans un demi-litre de lait avec 25 g de beurre. Donc là, on fait chauffer le lait. Ensuite, on met la vanille, on laisse tranquille. On fouette 2 œufs, 200 g de sucre, une pincée de sel. J'ajoute 100 g de farine. Et ensuite, on verse le lait infusé et tiède. Et on ajoute une cuillère de rhum, parce qu'il y a toujours du rhum.
Un peu de rhum.
Une ou deux cuillères, on fait comme on veut. Et ensuite, on filme la pâte et on la laisse reposer toute la nuit.
Mm-hmm.
Le lendemain, on beurre bien les cannelés. On verse l'appareil en laissant 1 demi-centimètre sur les bords, juste au-dessus. On enfourne 10 minutes à 210 degrés pour bien caraméliser. Et ensuite, on baisse pour cuire à 190 degrés. Et on laisse cuire 1 heure. Alors, ça dépend le four, ça dépend. Alors, moi, j'ai mis 1 heure, mais ça peut être 45 minutes. Il faut surveiller, ça va gonfler. Ce qui est très important, c'est la caramélisation.
Parfait. Je crois que là, si vous ratez vos cannelés, franchement, vous n'avez plus de raison. Et vous retrouvez la recette, bien entendu, sur le site rtl.fr. Merci beaucoup, Cyril.
Merci.
Il est 9h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Et donc à 9h01, un point sur l'information avec Jérôme Florin.
La liste des commerces autorisés à rester ouverts pourra encore évoluer, confirme ce matin sur RTL le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Nous avons fait des exceptions. Pourquoi? Mais tout simplement pour le moral des Français.
C'est le cas pour les coiffeurs. Nous l'avons fait parce qu'il y a des professions, prenez les fleuristes, ils font la moitié de leur chiffre d'affaires pendant cette période de printemps. Et derrière, il y a toute l'horticulture. Nous l'avons fait pour les chocolatiers parce que c'est Pâques. Je ne dis pas que c'est parfait. Et je le reconnais très volontiers. Mais je pense qu'autoriser les Français à sortir pour prendre l'air, en évitant qu'ils se regroupent dans des magasins, dans des grandes surfaces, c'est la solution que nous avons trouvée. C'est une solution de compromis. Je n'ai pas la prétention qu'elle soit idéale. Et nous accompagnerons chacun des commerces qui est condamné aujourd'hui à la fermeture.
9 interpellations à Marseille après le carnaval qui a réuni hier 6500 participants au mépris des règles sanitaires. Le ministre de l'Intérieur annonce aussi plusieurs dizaines de verbalisations. En football, Paris reprend la tête de la Ligue 1 après la déconvenue de Lille contre Nîmes. Le PSG a battu le 3e Lyon. 4-2 avec un doublé de Mbappé.
Jérôme Florin, il est 9.